septembre sur la maladie d'Alzheimer. Je voulais simplement vous accueillir avec l'équipe des bénévoles de l'association France Alzheimer. Nous sommes à votre disposition pour l'accueil des familles qui sont en souffrance. Je voulais simplement donc tout d'abord remercier l'équipe de l'hôpital qui nous a accordé ce temps sur les thérapies non médicamenteuses, l'orthophonie. Je remercie donc le docteur Dubois-Gueneuc et puis Madame Pluchon et son équipe pour le temps qu'ils nous accordent ce soir. Des choses très intéressantes. Je voulais simplement préciser également que nous organisons des formations pour les aidants familiaux. C'est-à-dire que toutes les personnes qui accompagnent un malade Alzheimer ou d'une maladie apparentée ont droit à 2 jours de formation. Et c'est ce que nous avons mis en place, c'est ce que nous mettons en place dès le mois de septembre sur Poitiers, sur Montmorillon, Châtellerault. Voilà, bon, je laisse la place à nos intervenants et je vous remercie.
Bonsoir. Donc, je vais vous donner quelques généralités sur la maladie d'Alzheimer et plus spécifiquement la place donc, de la rééducation orthophonique. Il y a effectivement des spécificités qui sont liées à cette maladie et qui font que la rééducation n'est pas aussi simple que dans d'autres troubles. Alors, en fait, je vais me mettre par ici, pardon. Comme vous voyez, bon, ça c'est des données très générales. On va revenir sur des concepts très, très généraux sur la maladie. Ça c'est une courbe que vous connaissez, hein, qui est très simple, qui montre un peu l'évolution de la maladie, qui se fait sur environ une dizaine d'années, et qui passe par différents stades, avec d'abord les premiers symptômes, ensuite le moment du diagnostic, et puis l'apparition de perturbations des savoir-faire ou du langage, qui vont entraîner une perte d'autonomie. Et puis, on va franchir un certain seuil qui va amener à des troubles du comportement et plus tard, peut-être, l'institutionnalisation. Alors, évidemment, la rééducation orthophonique n'intervient probablement pas directement ou difficilement, pas de catégorique, hein, au-delà de ce seuil. Je vais parler plus spécifiquement d'une rééducation orthophonique qui va concerner le patient à un stade plus précoce, hein, puisque maintenant on a la possibilité de faire un diagnostic assez précocement. Et donc vous voyez que ça va correspondre à peu près aux 4-5 années, 5 premières années de la maladie. Parce que le trouble, le problème spécifique à cette maladie, c'est la conscience du trouble. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres pathologies, on a un symptôme principal qui est l'amnésie. Et l'amnésie, c'est sous-tendu par souvent une inconscience du trouble qu'on appelle l'anosognosie. Alors là, je rappelle brièvement l'évolution. Vous voyez, donc c'est donné un peu technique, hein, mais brièvement, ça commence par la région temporale interne, vous voyez, ce qu'on appelle l'hippocampe. Hein, et puis, ça évolue progressivement vers des régions qu'on dit associatives, hein, qui vont concerner à la fois les connaissances langagières, les savoir-faire gestuels, la reconnaissance visuelle et puis un peu plus tard le comportement. Une particularité, c'est que en fait, cette maladie, elle a toujours la réputation d'être une maladie un peu globale, hein, qui touche l'ensemble du cerveau. Et ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que vous aurez tous remarqué que ces patients n'ont pas d'atteinte de fonctions très élémentaires, comme la motricité, la sensibilité, la vision. Et donc, on a des régions du cortex qu'on appelle primaires, visuels, auditifs, tactiles, qui sont largement préservés. Alors, diapositive suivante. Donc, je vous ai présenté ça sous la forme d'un schéma, hein, pour résumer les choses. On retrouve un peu ce cortex primaire, secondaire, tertiaire. Et donc, suivante. Donc, en fait, dans le fonctionnement normal, si vous voulez, l'information chez un sujet sain, elle nous parvient de différentes modalités sensorielles. Elle est traitée par tout ce cortex associatif, avant d'être stocké par ce fameux hippocampe qui sous-tend la mémoire. Et le problème, c'est que la maladie évolue de façon centrifuge, en commençant par ce centre qui est donc l'amnésie, et en atteignant secondairement des régions associatives où elle donne des perturbations à la fois du langage, à la fois des gestes, à la fois de la reconnaissance visuelle, qu'on va appeler aphasie, apraxie ou agnosie. Mais en fait, il y a une certaine hétérogénéité, c'est-à-dire que ces dernières années, on a remarqué que, contrairement au modèle que je vous ai montré juste avant, la maladie n'évolue pas de façon stéréotypée chez tous les patients. Il y a donc des pathologies, des patients qui présentent des symptômes très particuliers, des présentations originales. Diapositive suivante. Alors, on a des formes particulières comme ça, comme un début apraxique, avec des perturbations du geste, qui vont secondairement éventuellement toucher la mémoire. D'autres qui vont toucher préférentiellement le langage. Et puis d'autres encore qui vont toucher plutôt la reconnaissance. Mais toutes, effectivement, vont à un moment donné finir par toucher la mémoire. Suivante. Alors, ça signifie que voilà, mon objectif, c'est un petit peu de montrer quel est le champ de la rééducation orthophonique dans toute cette hétérogénéité des présentations cliniques. La rééducation orthophonique, effectivement, peut être mise en échec par certains symptômes. J'ai parlé de la nosognosie, et puis vous verrez qu'il y a d'autres régions du cortex qui sont plus difficilement accessibles, et d'autres, au contraire, qui se prêtent remarquablement à la rééducation. Alors, on peut distinguer de façon très globale deux populations. Une population, maintenant, c'est quelque chose d'assez connu, de sujets plus jeunes, en dessous de 70 ans, et qui présentent des formes focales, donc plutôt, comme je l'ai dit, apraxiques, aphasiques ou agnosiques. Ces patients ont en général une bonne conscience du trouble. Ils ont peu d'anosognosie. En plus, ils sont plus jeunes, donc ils sont moins fatigables. Ils se prêtent facilement, en fait, aussi bien au bilan neuropsychologique qu'à la rééducation. Et puis, comme ils sont plus jeunes, ils ont aussi beaucoup d'activités. Donc, en fait, la rééducation est utile parce qu'elle a un gros impact pour préserver les activités de la vie quotidienne. Le seul défaut, c'est que c'est souvent chez ces patients-là qu'on trouve des déclineurs rapides. C'est une des évolutions qui sont plus intenses que dans les autres cas. Alors, sinon, la forme classique, eh bien, c'est celle de sujets plus âgés, hein, celle qu'on connaissait au début. Plus de 70 ans, on a des formes amnésiques. Avec cette fois-ci, je vous ai dit, il y a une liaison, un lien très étroit avec la nosognosie. La nosognosie peut être très précoce, et donc on peut avoir des patients avec une perturbation isolée de la mémoire, mais qui déjà ne s'en rend pas compte. Et là, c'est vrai que je serais très intéressé d'entendre les interventions de mes collègues. Comment on fait, parce que ça, je ne sais pas, pour effectivement rééduquer une perturbation amnésique dont le patient lui-même ne se plaint pas. Ces patients, évidemment, plus âgés sont fatigables, plus fatigables, et on a quelquefois des situations où c'est carrément inapproprié, c'est-à-dire que le patient, quelquefois, est déjà dans les troubles du comportement, le déni de sa pathologie, et la rééducation devient extrêmement difficile. Ils ont comme avantage d'être des déclineurs lents, le plus souvent. Donc, on a pourtant une certaine marge temporelle. Diapositive suivante. Et si on affine encore les choses, eh bien, toutes les fonctions ne sont pas également accessibles à la rééducation. C'est-à-dire que selon que c'est plutôt une forme gauche du cortex qui est touchée ou droite, eh bien, les fonctions sont plus ou moins facilement accessibles à la rééducation. Alors, le carrefour gauche, bah, si vous voulez, ça inclut des symptômes comme l'aphasie, la graphie, l'alexie, enfin tout ce qui tourne autour du langage, la calculie. On a des patients qui débutent leur maladie par une atteinte extrêmement circonscrite de cette région, avec une perception des troubles qui est très forte, et on est en plein dans des fonctions langagières et de calcul qui sont les acquisitions finalement de la scolarité, hein, et qui disparaissent. Et j'ai beaucoup de patients qui sont effectivement ravis d'avoir une interaction avec une orthophoniste qui va les faire travailler sur l'orthographe, etc. À l'inverse, quand c'est le carrefour droit, c'est plus compliqué parce que là, ça donne des symptômes plus difficiles à cerner, comme la négligence spatiale, des troubles visio-spatiaux, des perturbations du schéma corporel et des troubles de l'habillage, curieusement, qui là relève quelquefois plus de l'ergothérapie ou d'autres disciplines, bien qu'une partie, comme les troubles visio-spatiaux, soit accessible aussi à la rééducation. Diapositive suivante. Alors, ça, c'est une notion compliquée que je voulais quand même vous communiquer parce que j'en parle souvent à mes patients en consultation. En fait, on a une idée assez stéréotypée. Je vous ai montré cette courbe linéaire ou un peu sigmoïde là, de l'évolution de la maladie. Celle-là, elle correspond en fait aux connaissances anatomiques, en fait, à l'évolution anatomique de la maladie, qui a la réputation d'être progressive, d'être lente. Et en fait, la pratique montre que ce n'est pas toujours le cas. On a des patients qui peuvent avoir des décompensations brutales. Et comment ça se passe? Alors, pour moi, la meilleure façon d'illustrer les choses, c'est d'imaginer que vous avez... Il y a deux choses. Il y a, si on prend comme le niveau de la mer, vous avez cette espèce de seuil. En dessous, il y a un espace qui est un peu invisible. Et au-dessus, il y a ce qu'on voit. Ça, c'est le domaine, je dirais, des formes assez précoces, avec des choses qui ne sont visibles que par les examens complémentaires, que ce soit l'imagerie, les biomarqueurs, et puis le bilan neuropsychologique, qui donc va identifier en fait un trouble à un stade précoce. Et effectivement, ça c'est du déficit dur, si j'ose dire. C'est ce qu'on peut appeler le récif. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans l'aphasie, l'apraxie, l'agnosie, l'amnésie. Et ça, ça évolue progressivement, c'est bien vrai. Diapositive suivante, vous pouvez cliquer. Voilà, et puis on va atteindre un seuil, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis quand on dépasse ce seuil, eh bien, les symptômes apparaissent de façon flagrante et on rentre effectivement dans la perte d'autonomie. Mais le problème est plus compliqué parce qu'en fait, il y a des effets de marée. C'est-à-dire que, vous pouvez cliquer ensuite, eh bien, selon les circonstances, et ça, je crois que c'est très important de le considérer, et encore, des facteurs extérieurs vont changer et le patient brutalement va décompenser sa pathologie. Et ça, tous ceux qui ont dans leur famille, dans leurs proches, quelqu'un qui souffre du mal d'Alzheimer ont tous remarqué qu'il peut y avoir une aggravation brutale et curieusement, ça peut être souvent à la faveur d'une hospitalisation. Et donc, il y a cet effet de marée qui change le seuil et qui fait que à niveau égal de déficit, à niveau égal d'évolution de la maladie, le même patient va arriver à l'hôpital pour des explorations ou pour n'importe quelle pathologie. Et le souci, c'est que sa maladie touche une région du cerveau très particulière. On n'est pas sur un organe comme les autres, on est sur l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la capacité, et la mémoire, c'est la capacité à s'adapter à la nouveauté. Et donc, le patient sera parfaitement stable et l'évolution sera toujours progressive pour autant que le patient demeure dans un environnement stable. Et dès lors que vous l'emmènerez à l'hôpital ou que vous l'emmenez en vacances dans un endroit qu'il ne connaît pas et qu'il doit apprendre, vous allez remarquer comme un épisode de confusion avec tout à coup l'apparition d'une désorientation dans le temps et dans l'espace et quelquefois, des troubles du comportement. Et donc, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer là-dessus. Il y a l'effet changement d'environnement, donc on retrouve dans le moment de l'hospitalisation. Je ne parle même pas des drogues qu'on administre aux patients. Quand on sait très bien que quand on vient à l'hôpital pour une fracture du fémur, du col du fémur, avec l'anesthésie qui s'ensuit, on a des patients qui peuvent être complètement confus au réveil, parce que les drogues viennent taper exactement à l'endroit qu'il faut. Et à l'inverse, j'insiste encore un peu, à l'inverse, le retour dans l'environnement peut entraîner une stabilisation spectaculaire. Et alors on a des scénarios absolument extraordinaires, de patients qu'on fait venir à l'hôpital pour les explorer, ils vont décompenser avec toute la désorientation, la confusion qui s'ensuit, etc. On met des thérapeutiques qui veulent calmer l'angoisse du patient. Finalement, on l'assomme parce qu'à vrai dire, sur le plan symptomatique, on n'a quand même pas un arsenal thérapeutique si génial que ça. Et le patient rentre à la maison et j'ai entendu des conjoints me dire qu'au moment où il franchit la porte, tout disparaît. Au moment exact où il rentre chez lui. Les hallucinations disparaissent, la confusion disparaît, le patient retrouve ses repères et c'est terminé et on se retrouve à la case départ. Et merci docteur, vous nous avez bien aggravé notre patient, Tout ça a coïncidé avec l'hospitalisation. J'accuse les médecins qui ont mis telle ou telle drogue. Et donc, si vous voulez, on est dans un dialogue complètement schizophrénique. Et donc, je suis obligé de leur expliquer ça parce que, si vous voulez, c'est pas ça qu'on a aggravé. C'est ça qu'on a descendu. Et quand ils rentrent à la maison, ça remonte là. Et donc, ça fait réfléchir, si vous voulez, sur l'environnement. Ce qui est stocké par l'hippocampe, codé par l'hippocampe, c'est la reconnaissance de l'environnement. Et donc, on peut démasquer un Alzheimer inconnu simplement parce qu'il va passer des vacances ici. Combien de fois j'ai entendu tel patient qui va se perdre dans un hôtel alors qu'il était en vacances ici ou là et qui ne retrouve pas sa chambre ou les toilettes, etc. Et là, on dit erreur spectaculaire, confusion, que se passe-t-il alors que mon mari allait très bien jusqu'alors. Diapositive suivante. Alors, la place de la rééducation, eh bien, elle agit sur ces deux facteurs. Elle consiste premièrement à faire un diagnostic précoce pour identifier les déficits qui sont les plus accessibles à la rééducation. On a parlé de l'amnésie. Alors, l'amnésie est un problème parce que l'amnésie nous mène tout droit ici. Mais pour ce qui est de l'aphasie, de la praxie ou de l'agnosie, eh bien, c'était très intéressant de faire un diagnostic précoce parce qu'alors on a une marge thérapeutique. On a un patient qui a un recul par rapport à son déficit. Suivante. En plus, en fait, l'orthophoniste va pouvoir, avec la qualité de la relation et en stabilisant l'environnement, si, pour peu que ça se fasse à proximité d'orthophoniste en libéral, proximité de, il y a un rythme qui se crée, il y a un lien qui s'établit. Et on va monter le seuil au maximum. Et là, il y a une marge thérapeutique suivante qui va permettre d'agir effectivement sur ce qui est préservé, puisqu'on est sur une atrophie focale. Même quand c'est amnésique, au début, c'est focal. Il ne faut pas tout de suite en faire quelque chose de global. Et donc, il s'agit de travailler sur les fonctions préservées dans ce contexte-là. Suivante. Et on peut même penser que dans des conditions aussi favorables, on ait des possibilités, effectivement, grâce à une certaine plasticité corticale, de compenser, si vous voulez, les déficits. Alors, on ne va pas rentrer dans le problème de la plasticité, parce qu'il est vrai que la maladie d'Alzheimer a une certaine perversité, dans la mesure où, premièrement, la perversité de l'Alzheimer, c'est que ça touche la conscience du trouble. On a dit l'amnésie, dans les formes typiques, donc la nosognosie, donc inconscience du trouble, donc non-participation. Et par-dessus le marché, l'hippocampe est une des rares régions du cerveau qui a une forte plasticité. Donc c'est elle qui le plus souvent est touchée. Évidemment, les autres régions sont moins plastiques. Diapo suivante. Voilà, pour conclure, je ne pouvais pas empêcher, sur la base de ces schémas, de résumer les choses en disant, alors ça ne correspond pas tout à fait au schéma, mais que le travail de l'orthophonie, finalement, se résume à... Enfin, quelque part, essayer de construire une sorte de récif corallien contre l'érosion des fonctions cognitives, de manière à maintenir le patient à flou. Quoi. Voilà. Merci.
Bien, je vais donc à mon tour prendre la parole. Je suis orthophoniste au sein de l'unité de psychologie et rééducation du langage du CHU de Poitiers. Et je tenais tout d'abord à remercier, au nom de mes collègues et en mon nom propre, l'association France Alzheimer qui nous a conviés à participer à cette soirée. Je vais donc essayer de vous parler des pistes possibles dans le cadre des traitements non médicamenteux pour la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. Bien sûr, plusieurs questions se posent lorsqu'on aborde le sujet des traitements qui sont non pharmacologiques, qui sont maintenant proposés pour la prise en charge de cette maladie. Quelles questions ? Eh bien, tout d'abord, quels sont les différents types d'approches que l'on peut proposer ? Sur quelle base théorique aussi repose l'indication de mise en place de ces approches? Et enfin, qu'est-on réellement en droit d'espérer des traitements non médicamenteux en termes de bénéfices thérapeutiques? Toutes les approches, elles ont bien sûr pour objectif d'optimiser la prise en charge du malade en ciblant différents aspects et en fonction de la thérapie appliquée, en ciblant différents aspects de l'efficacité cognitive. Donc le fonctionnement global, les troubles du comportement, qui sont également au premier plan, l'autonomie du malade et tout simplement le bien-être du patient. Certaines de ces thérapies s'appuient sur une approche psychosociale. D'autres sont issues du champ de la psychopathologie. D'autres, enfin, ont été développées au regard des connaissances issues de la neuropsychologie cognitive. Les pistes possibles pour les prises en charge non médicamenteuses se regroupent donc globalement selon quatre axes principaux: les thérapies dites cognitives, les thérapies psychosociales, la thérapie par le mouvement et la stimulation sensorielle. Puisque nous sommes orthophonistes et que nous parlons du rôle de l'orthophonie dans la prise en charge de ces malades, il faut bien dire que l'orthophonie se trouve plus particulièrement au carrefour des deux premiers axes. Les autres approches concernant donc, pour la thérapie par le mouvement, plutôt l'activité motrice, et pour la stimulation sensorielle, des méthodes telles que la musicothérapie, l'art-thérapie, la luminothérapie, on parle aussi d'aromathérapie. Mais l'orthophonie est donc bien axée sur la prise en charge cognitive et également implique les thérapies dites psychosociales. Sur quoi se basent donc les thérapies cognitives? Eh bien, elles se basent sur trois notions importantes qui sont celles de réserve cérébrale, celle de réserve cognitive, et le docteur Dubois-Gueneuc en a parlé un peu, celle de plasticité cérébrale. La notion de réserve cérébrale, elle fait référence à la quantité de neurones et de connexions neuronales dont nous disposons chacun. La notion de réserve cognitive, elle désigne l'ensemble de nos ressources cognitives, de nos ressources intellectuelles en quelque sorte. Cette réserve, on sait qu'elle peut être optimisée par l'éducation, par les loisirs, par les occupations tout simplement. Il a été montré tout de même que des sujets qui ont une réserve cognitive importante peuvent compenser plus longtemps les effets négatifs, les effets délétères de la maladie d'Alzheimer que ceux qui ont une faible réserve cognitive. Enfin, la notion de neuroplasticité, on dit encore plasticité cérébrale, c'est la même chose, peut aussi laisser espérer une résistance accrue aux altérations sous l'effet d'interventions thérapeutiques cognitives, et ce, donc, grâce à la transformation du réseau interne des connexions neuronales en réaction à certaines contraintes environnementales. Parmi les techniques les plus fréquemment proposées au stade précoce de la maladie et qui visent au renforcement des dites capacités cognitives, certaines sont qualifiées de stimulation, on dit encore rééducation ou remédiation cognitive. Elles ont pour but une stimulation générale de la cognition en séance individuelle ou en groupe, alors que d'autres, qui sont dites de réadaptation ou de réhabilitation cognitive, proposent une approche strictement individuelle et qui est ciblée plutôt sur une tâche très précise. Cette technique, elle trouve leur justification dans le fait que la maladie ne touche pas d'emblée de manière diffuse, Monsieur Dubois-Gueneuc vous l'a dit, tous les processus cognitifs, et que certains aspects du fonctionnement cognitif demeurent relativement préservés. Leur intérêt, c'est bien sûr aussi de favoriser la confiance en soi, la motivation chez le patient, de dédramatiser les difficultés et de favoriser également la sociabilité. La stimulation cognitive, nous allons donc en parler tout d'abord, elle s'intéresse au langage, à la mémoire verbale, à la compréhension orale, compréhension écrite, à l'attention et à tout ce qu'on appelle également les fonctions exécutives qui nous permettent de programmer, planifier nos actions, etc. Le soutien orthophonique, il trouve ici tout naturellement sa place si l'on sait que dans cette maladie, les troubles du langage sont présents dans 50% des cas et qu'ils se caractérisent en début de maladie par un manque du mot. Manque du mot auquel va venir s'ajouter des troubles de compréhension. Des études, et je cite ici Hodge et Patterson, ont montré qu'au stade très précoce de la maladie d'Alzheimer, la plupart des patients présentaient également un déficit au test de mémoire sémantique. Qu'entend-on par mémoire sémantique ? C'est cette mémoire qui nous permet de gérer le sens des mots, l'accès au sens des mots, la signification du mot. Que veulent dire les mots citron, manège ? Ça peut nous paraître simple lorsqu'on n'a aucune difficulté, mais pour certains patients, c'est un souci. Et si l'on aborde les mots moins fréquents ou plus abstraits, les difficultés grandissent, bien sûr. Les mots perspicaces, éphémères, que veulent-ils dire ? La mémoire sémantique, à ces stades très précoces, elle n'est pas encore déstructurée, mais elle est difficile d'accès. Comment peut-on affirmer cela ? Eh bien, le fait de fournir des indices aux patients va pouvoir faciliter le rappel des mots chez lui. À des stades qui sont par contre plus avancés de la maladie, et on parle alors de score au MMS, Mini Mental State, c'est un test qui permet d'évaluer l'efficacité globale du malade. Eh bien, à des scores inférieurs à 18 sur 30, on observe une augmentation de l'anomie, donc du manque du mot. On observe un langage vide, c'est-à-dire un langage sans grande signification. Et une chute aux épreuves de connaissances générales. Ces auteurs ont retrouvé 73% d'erreurs sémantiques lorsqu'on fait dénommer des images. C'est par exemple le malade qui va vous dire un bonnet à la place du chapeau. Bon, c'est encore très voisin, mais lorsqu'il va vous dire un canapé à la place d'une chaise, on s'éloigne déjà un peu. Et s'il vous dit crayon à la place de la chaise, on s'éloigne beaucoup. 22% d'erreurs gnosiques, c'est-à-dire d'erreurs dues à des difficultés un petit peu de reconnaissance. C'est le malade qui dit feuille au lieu de plume lorsqu'on lui montre l'image d'une plume, parce que la morphologie est voisine. Et seulement 5% d'erreurs phonologiques, c'est le malade qui va vous dire tourte à la place de tortue. Donc erreur au niveau de l'agencement, si vous voulez, des sons qui constituent le mot. Ces dernières constatations, elles vont justifier la mise en place de tâches que l'on dit sémantiques et dont beaucoup vont faire appel à l'activation de représentations conceptuelles. Donc, à titre d'exemple, on peut citer, pour que vous ayez quand même une idée de ce que l'on peut faire en rééducation, les tâches que l'on dit de catégorisation. On demande aux gens de classer des mots en fonction des catégories auxquelles ils se réfèrent. Différencier les végétaux comestibles des non-comestibles, différencier les animaux sauvages des animaux domestiques, différencier les objets d'intérieur des objets d'extérieur, etc. On leur fait faire également des tâches d'appariement mot-image ou image-mot avec choix multiples, dont voici un exemple simple, hein, auquel des deux dessins, à chaque fois, associez-vous le mot qui vous est proposé. On leur fait faire des tâches de vérification d'appariement, dire en effet si les associations mots-images qu'on leur propose sont ou non exactes. Il y a les tâches tout simplement de définition de mots. Expliquez-moi ce qu'est un avocat, ce qu'est un crocodile, ce qu'est un insecte. On leur fait faire des tâches d'appariement, définition mots ou définition images. Exemple. Eh bien, si je donne la définition suivante, outil utilisé pour retourner la terre, est-ce que vous pensez que ça correspond plutôt à la définition d'une faux, d'une bêche ou d'une serpette ? On leur fait faire des tâches de jugement que l'on dit sémantiques, c'est-à-dire qu'il faut se prononcer sur l'exactitude de certains énoncés. Le marteau est utilisé pour couper du bois, vrai ou faux ? La harpe est un instrument de musique à cordes, vrai ou faux ? Il y a les tâches de jugement associatif. Exemple, si je vous donne les mots palmier et chêne, lequel de ces deux mots pensez-vous devoir associer au mot pyramide ? Donc vous voyez bien qu'il faut faire référence au sens des mots pour pouvoir donner la réponse exacte. Et puis, bien sûr, il y a toutes les tâches de synonymie, dire si oui ou non deux mots sont synonymes ou trouver les synonymes, dire si oui ou non ils sont contraires, c'est le même type d'activité. Mais l'acte langagier, il fait aussi appel aux capacités de planification, de contrôle, pour assurer la cohérence du discours, la cohésion du discours. Si l'efficacité de la communication verbale requiert bien sûr une compétence linguistique, hein, par laquelle on désigne bien la maîtrise du code linguistique, elle requiert aussi une compétence pragmatique qui reflète l'aptitude à utiliser le langage pour atteindre le but que l'on veut, atteindre ce qu'on s'est fixé de dire. Et plus précisément, cette compétence pragmatique, elle implique d'une part la maîtrise d'habiletés spécifiques, comme la capacité à gérer l'alternance des rôles dans une conversation, à initier un thème ou à négocier un changement de thème, à procéder à des réparations conversationnelles en demandant de clarifier ou de confirmer. Et d'autre part, elle implique également la maîtrise d'habiletés cognitives plus générales, capacité à planifier l'action, à intégrer plusieurs sources d'informations, à adopter le point de vue d'autrui, etc. Certaines personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer manifestent dès les premiers stades des difficultés qui semblent bien liées à une altération spécifique de leur capacité dite pragmatique. On observe ainsi, chez ces sujets, une altération de la cohérence du discours. On observe des altérations de la cohésion du discours, dont l'unité ne peut plus être assurée parce que le malade utilise mal certains outils, comme les conjonctions, les marqueurs de séquence temporelle. C'est le patient qui va dire « le » à la place de « ensuite » ou de « depuis » ou de « alors », et du coup, le discours n'est plus cohérent. C'est le malade qui utilise également des pronoms sans référent. Exemple, Eric et Paul naviguaient en mer quand ils aperçut un îlot. Il, c'est Eric, c'est Paul, on ne sait pas très bien. En ce qui concerne la gestion des tours de parole et des actes de langage, certaines études ont montré que les patients présentant cette maladie avaient besoin de pauses plus longues lors d'un changement d'interlocuteur et qu'à des stades plus avancés, ils avaient des difficultés à initier une conversation, mais aussi à la clôturer. Donc, quelques études se sont intéressées aux procédures de réparation utilisées par les patients Alzheimer et par leur partenaire conversationnel, le plus fréquemment, bien sûr, le conjoint. Et ces observations, elles donnent à penser qu'il pourrait y avoir un déficit au niveau des mécanismes de contrôle qui vérifient l'adéquation entre ce que l'on veut dire et ce que l'on dit. Que peut-on faire face à un patient Alzheimer pour essayer de faciliter l'interaction? Eh bien, on peut procéder, recourir à des procédures de réparation. Dans la conversation normale, chez les sujets normaux, on utilise tous ces procédures de réparation pour faire face aux incidents qui peuvent comprendre des changements de message, des incompréhensions, des diffluences, hein. L'utilisation de ces réparations, elle a d'importantes conséquences sur l'interaction. Et je fais ici référence aux travaux de Shegloff, Jefferson et Sachs, qui ont étudié ces procédures dans la conversation normale chez les sujets normaux. Ils ont montré que l'on pouvait utiliser, par exemple, la procédure d'autoréparation. Le sujet qui, spontanément, dit « Je suis chez Anne ». Non, non, non. Pas chez Anne, c'est lui-même qui initie sa propre réparation s'il en a les moyens. Mais le sujet qui dit « je suis chez Anne » et qui se trompe, eh bien c'est l'interlocuteur, le conjoint en l'occurrence, le plus fréquemment, qui peut essayer de réparer le langage du patient en lui disant « chez qui ?» Donc il lui fait simplement remarquer qu'il se trompe. Et l'autre peut-être, à ce moment-là, retrouver la bonne réponse et dire ben, « En effet, désolé, non, je voulais dire chez Kate. » Et enfin, il y a l'hétéro-réparation, dont l'hétéro-initiation initiée par l'interlocuteur et l'hétéro-réparation qui dépend également de l'interlocuteur. Le sujet disant « Je suis chez Anne » mais ne pouvant en aucune manière se corriger et l'interlocuteur lui donnant du coup la bonne réponse « Non, non, tu voulais dire Kate. » Hein? Voilà ces procédures de réparation que l'on peut peut-être mettre en place aussi pour faciliter la conversation avec le patient et l'amener à auto-réparer son propre langage parfois. Saba a également montré ce qu'on appelle les corrections indirectes en employant des formules du style « donc, vous dites que, vous vouliez dire que, voyons si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire » et en vous amenant ainsi le patient à tenter de s'auto-corriger, de retrouver les mots ou de reformuler sa pensée, ce qui va lui permettre peut-être d'avancer dans la communication et de rester en contact avec l'interlocuteur. En utilisant systématiquement ce type de demande de clarification avec un malade à un stade même modéré, l'auteur, Saba en l'occurrence, observait que son patient, puisque c'est sur un malade qu'il a publié, était capable de s'engager dans des conversations et de communiquer des idées liées à des aspects émotionnels et intellectuels de sa vie. Il était également capable de comprendre les commentaires de son interlocuteur, de faire des élaborations sur certains d'entre eux et de corriger l'interlocuteur quand celui-ci avait mal compris son point de vue. Mais en l'absence de cette coopération active et en l'absence de demande de clarification, le langage du patient aurait bien sûr été un langage considéré comme décousu, confus, incohérent. Alors si l'on parle maintenant réadaptation ou réhabilitation cognitive, ce sont donc plutôt des méthodes thérapeutiques individuelles. On va définir des besoins et des objectifs individuels. Et le but, c'est d'optimiser le fonctionnement du patient dans la vie quotidienne, en adoptant des stratégies de facilitation ou bien en exploitant des systèmes de mémoire qui sont longtemps préservés dans cette maladie, et c'est ici la mémoire implicite qui est visée, ou en fournissant des aides externes adaptées. Les stratégies de facilitation, elles doivent être donc adaptées aux déficits particuliers de chaque malade, tels qu'ils ont bien sûr été identifiés à partir d'un bilan neuropsychologique précis. Il n'y a pas de prise en charge sans bilan neuropsychologique préalable, précis, détaillé, fourni. Que peut-on faire? Eh bien, par exemple, on peut faciliter la mémoire de récit en omettant les détails, en ne surchargeant pas la mémoire de l'autre, en soulignant les points importants. On a tous utilisé aussi ces techniques, ne serait-ce que pour apprendre. En résumant chaque partie avant de présenter la suivante. Donc, vous facilitez la tâche du malade. L'apprentissage de noms propres, on sait qu'il peut être facilité en ayant recours à des procédés mnémotechniques. Toutefois, utiliser spontanément une stratégie de facilitation, lorsque ça s'avère utile, il ne faut pas rêver. Ça reste quand même difficile pour ces malades, surtout ceux, et ils en ont tous pratiquement, un déficit de l'attention, ils ont tous un déficit de planification et de compréhension. Donc ces techniques, elles sont utiles, elles ont leur place, mais il faut bien dire qu'elles ne peuvent qu'être un moyen palliatif, en quelque sorte. Une approche individuelle utilisant les systèmes de mémoire implicite, ciblée sur une tâche précise, ben oui, pourquoi pas, qu'il s'agisse d'une activité quotidienne, d'une activité de loisir ou de l'apprentissage d'une information ciblée. Et à ce moment-là, on s'appuie sur la technique de l'apprentissage sans erreur. Le malade, en effet, il est incapable de se souvenir consciemment de ses erreurs. Il est incapable de se rappeler comment il les a corrigées. Il est donc incapable d'éviter de les répéter. Mais s'il est confronté à plusieurs reprises à une même situation, il va rester longtemps capable de reproduire le premier comportement adopté face à cette situation. La mémorisation, elle s'effectue alors de manière implicite, de manière non consciente. Et ce, grâce à l'intégrité de certaines structures cérébrales qui restent épargnées dans la maladie d'Alzheimer. Par conséquent, il vaut mieux, par exemple, lorsque le malade ne sait plus exécuter une action pratique, eh bien lui montrer le geste correct d'emblée ou lui donner la réponse correcte à une question, de manière répétée, bien sûr, plutôt que de le laisser lui-même commettre et recommettre des erreurs. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage sans erreur. Une autre technique utilisée est la technique d'estompage, les indices qui sont fournis au patient pour l'aider à mémoriser une information nouvelle, eh bien, vont être progressivement estompés jusqu'à ce que la réponse correcte soit produite en l'absence des 10 indices fournis au départ. Cette technique, elle s'est notamment montrée efficace pour apprendre des associations non-visage, mettre un nom sur un visage de personne. Enfin, la technique de récupération espacée, eh bien, elle est aussi utile. Autrement dit, tester la mémorisation d'une information, un nom d'objet, une localisation d'objet, à des intervalles de temps de plus en plus longs. Recours à des aides externes, oui, pour diminuer l'impact du déficit cognitif. Les intervalles de temps de plus en plus longs. Demander la récupération, la mémorisation, le geste, l'information à fournir. On laisse de plus en plus de temps entre chaque essai. Donc le recours aux aides externes va permettre de diminuer l'impact sur le fonctionnement quotidien. Donc ce sont vraiment des aides externes. C'est le carnet mémoire dont vous avez tous entendu parler. C'est le calendrier où sont inscrites les tâches à effectuer. C'est aussi la possibilité de préenregistrer les numéros de téléphone lorsqu'on avance dans la maladie, hein, de choisir un endroit où seront déposés tous les objets après utilisation. Donc un seul endroit, on y reprend tout ce que l'on cherche. Un mot des thérapies psychosociales qui, elles, sont plutôt destinées à améliorer l'estime de soi, les capacités de socialisation, à réduire les troubles du comportement. Dès 1980 a été introduite la notion de thérapie par évocation du passé, la réminiscence thérapie, qui se fonde en effet sur la réminiscence d'activités, d'événements et d'expériences passées du patient lui-même. Les séances se déroulent en compagnie d'une personne qui connaît bien la vie du malade, bien sûr, ou d'un groupe de personnes connues également du patient, lequel va être convié à amener, donc en collaboration avec son conjoint, des photographies, des enregistrements familiaux, des musiques, des objets, qui vont servir de support à l'évocation des souvenirs. L'objectif, c'est plus d'améliorer, je le répète, l'estime de soi du patient et de stimuler les capacités de socialisation résiduelles. On est moins dans l'espoir de mobiliser, d'activer, de maintenir et peut-être même d'améliorer pendant un temps la cognition. D'accord ? Certains auteurs ont quand même montré un impact de ces thérapies sur la mémoire autobiographique, sur le bien-être également du malade. Les études, il faut l'avouer, restent toutefois peu nombreuses à ce niveau et de qualité quand même moyenne. La thérapie par l'empathie, eh bien, elle cherche à augmenter chez les patients la sensation de contrôle et d'adaptation à l'environnement, à stimuler ses aptitudes communicationnelles résiduelles. Autrement dit, sur quoi repose-t-elle ? Sur la reconnaissance, sur la compréhension des sentiments du patient par l'autre et sur l'acceptation des sentiments du patient par l'autre. Il est donc recommandé d'observer, mais aussi de copier les mouvements et les émotions de la personne. Reformuler ce que parvient plus ou moins laborieusement à exprimer le malade, capter son regard, utiliser des mots simples qui apaisent aussi des mots concrets et lui montrer qu'ainsi vous êtes toujours en adéquation avec lui et que ce qu'il a à communiquer est important pour vous. Bon, les bénéfices de ce type de thérapie ne sont pas documentés par des études bien nombreuses. Néanmoins, chez les patients qui présentent une maladie légère à modérée et qui résident en centre d'hébergement, il a pu être montré une amélioration de l'équilibre émotionnel, avec une réduction de l'anxiété, ce qui n'est pas négligeable, et une amélioration de l'image de soi, avec diminution du degré d'insatisfaction, moins d'accès de colère, moins d'accès de violence. Ce sont les études de Finema, je ne l'ai pas écrit, en 2005. En conclusion, puisqu'il faut bien conclure, que sait-on ? On sait que l'on peut espérer optimiser une certaine réserve fonctionnelle, dans les formes prédémentielles surtout, mais aussi dans des formes modérées de certaines maladies dégénératives. On sait aussi que des techniques de revalidation cognitive peuvent être mises en place et se révéler efficaces dans les formes mineures de la maladie d'Alzheimer. Le docteur Duwagenhoek l'a souligné également. Toutefois, il reste bien sûr évident que la prise en charge doit s'adapter au fur et à mesure de l'évolution des troubles démentiels. car la maladie va continuer à avancer. Dans la démence, ça n'est pas un très joli mot, mais dans la démence, quel est l'objectif final ? Il reste l'élaboration d'un compromis raisonnable entre les pertes et les ressources résiduelles. Le thérapeute doit prêter attention aux capacités préservées, réfléchir aux possibilités que celles-ci peuvent offrir dans la gestion des problèmes de communication. L'analyse pragmatique du langage, vous l'avez vu, peut aider à renforcer la communication inter-individuelle avec la collaboration des proches, et là, les aidants sont en première ligne. Le but à atteindre, c'est exploiter au mieux les ressources collaboratives des uns et des autres et permettre aux patients de garder le plus longtemps possible des moyens d'exister et d'être encore entendus des autres. Merci pour votre attention. Alors, je vais passer la parole à ma collègue, Agnès Maurice, qui doit vous parler de la prise en charge spécifique de l'aphasie primaire progressive.
On va attendre de régler un petit problème technique et puis nous allons poursuivre cette soirée. Voilà. Je vais trop vite.
Ah, c'est là, hein. C'est FN quelque chose, non ? FN, F5 ?
Peut-être.
Oui, je pense.
Alors, c'est le suivant. C'est,
alors, c'est FN F6, peut-être
C'est deux fois sur F5.
Oui. Il y a un truc comme ça.
Ah, tu l'avais...
C'est bon.
Voilà. Bien, donc, nous avons vu que les démences sont caractérisées par l'aggravation progressive de troubles cognitifs et comportementaux qui vont assez rapidement retentir sur l'autonomie du patient. Mais chez certains sujets, il existe en fait une altération progressive d'une seule fonction cognitive. Le docteur Dubois-Guénoc l'a évoqué tout à l'heure. Et en l'absence, du moins dans les premières années de la maladie, d'un contexte démentiel. Et donc ce soir, dans ce cadre-là, nous allons nous intéresser aux aphasies primaires progressives pour lesquelles les troubles du langage apparaissent de manière insidieuse. Alors cette affection débute entre 55 et 65 ans, donc chez des sujets relativement jeunes. L'évolution se fait habituellement vers une perte d'autonomie entre 6 à 7 ans et vers une démence frontotemporale, parfois une démence de type d'Alzheimer. Sur le plan historique, c'est Pick qui, le premier, en 1892, a rapporté des troubles du langage dans un contexte de démence, en rapport avec une atrophie corticale du lobe temporal gauche retrouvée post-mortem. Puis d'autres études ont suivi, celles de Degerine et Sérieux en 1897, qui nous rapportent un cas de surdité verbale pure chez une patiente âgée de 47 ans, surdité verbale pure ayant évolué vers une aphasie de Wernicke. Plus proche de nous, Cole, en 1979, rapporte, lui, l'histoire familiale de 10 membres d'une même famille sur 3 générations qui ont développé des troubles du langage progressifs. « Et désormais, on parle d'une nouvelle entité avec Mesulam, qui en 1982 nous décrit 6 cas d'aphasie lentement progressive, 5 cas d'anomie. Donc les patients ne trouvent plus le nom des choses, des objets, des personnes, etc. Et un cas de surdité verbale pure, les patients ne comprennent plus le langage oral. En 1987, Mesulam propose d'appeler cette nouvelle entité aphasie primaire progressive ou syndrome de Mesulam. Et en 2003, il propose 7 critères diagnostiques pour identifier ce type d'aphasie. Alors, je vous ferai cadeau des 7 critères diagnostiques. Retenons simplement que les troubles du langage vont apparaître de manière insidieuse. Le langage va se dégrader progressivement en l'absence de troubles démentiels durant les 2 premières années de la maladie. Au-delà de ces 2 ans, d'autres troubles cognitifs vont venir se surajouter, mais les troubles du langage resteront toujours au premier plan. Les auteurs classent ces aphasies primaires progressives généralement en aphasie non fluente et aphasie fluente. Alors j'ai retenu ici une classification simplifiée et nous allons parler au sein des aphasies non fluentes, de l'aphasie primaire progressive non fluente décrite par Mesulam. Il s'agit d'une aphasie donc, dans laquelle le discours est non fluent avec un manque du mot, un agrammatisme, des troubles arthriques, le patient a du mal à articuler les mots. On trouve également des paraphasies phonémiques, mais la compréhension orale du langage est relativement bien préservée. Gorno-Tampini et ses collaborateurs nous décrivent quant à eux l'aphasie primaire progressive logopénique, dans laquelle le discours est peu fluent. Là encore, il existe un manque du mot, mais la grammaire est correcte. Par contre, la répétition est perturbée, la compréhension est relativement bien préservée. À ces 2 aphasies non fluentes s'oppose l'aphasie primaire progressive fluente. Bien que ce soit une aphasie fluente, le patient présente là aussi un manque du mot. Le discours va donc être entrecoupé de pauses à la recherche du mot exact. Ce qui est caractéristique de cette aphasie, c'est surtout les troubles de la compréhension et la compréhension des mots. C'est pourquoi certains auteurs parlent de démence sémantique pour l'aphasie primaire progressive. Il est vrai que cette aphasie va pouvoir évoluer vers une démence sémantique. Dans ce cadre-là, non seulement le patient a une anomie, également des troubles de la compréhension du mot, mais aussi un déficit de la reconnaissance des objets et des visages. Ces aphasies vont évoluer vers un mutisme et vers des troubles de la compréhension du langage oral massif. Le tableau sera complété la plupart du temps, après quelques années d'évolution de la maladie, sera complété donc par une aphasie frontotemporale, par une démence frontotemporale, quelquefois par une démence de type Alzheimer. Nous allons nous arrêter maintenant sur la prise en charge des aphasies primaires progressives, même s'il existe peu de données dans la littérature sur ce type de prise en charge. On trouve surtout des études de cas. Voilà, bien qu'il y ait peu de publications, j'ai retenu malgré tout Croisil et Moreau, 2 neurologues, qui ont souligné l'importance de cette prise en charge orthophonique dans le cadre des aphasies primaires progressives. Tous deux appartiennent à des CM2R, centres de mémoire, de ressources et de recherche, qui sont au nombre de 12 en France et qui ont été labellisés en décembre 2008 pour les démences rares par le ministère de la Santé et des Solidarités dans les CHU de Angers, Bordeaux, Dijon, Lille, Limoges, l'ensemble Lyon-Saint-Étienne-Grenoble, Marseille, Montpellier, Poitiers, Rouen, Strasbourg et Toulouse. La majorité de ces centres travaillent avec des neurologues, avec des neuropsychologues et avec des orthophonistes. Ces professionnels pratiquent bien sûr une évaluation des difficultés des patients, des troubles des patients. Ils participent à la pose du diagnostic et ils participent également à des travaux de recherche. La prise en charge des patients présentant une aphasie primaire progressive se fait plutôt à l'extérieur, en secteur libéral. Alors, il n'existe pas de prise en charge type pour cette affection. Je vais vous proposer ma manière de procéder. Il en existe bien sûr d'autres. Il est d'abord indispensable d'effectuer un bilan du langage approfondi. L'équipe de Toulouse, oui, c'est bien ça, travaille à l'élaboration d'une échelle d'évaluation spécifique pour cerner au mieux les troubles des patients présentant ce type d'aphasie. Mais l'échelle n'est pas encore validée. Et donc, en attendant cette validation, on utilise les outils classiques d'exploration des troubles du langage. Les résultats du bilan sont communiqués aux patients, à la famille, aux membres de l'équipe soignante, en fonction de ce que chacun peut entendre, bien sûr. Il faut bien comprendre que cette maladie va évoluer sur plusieurs années. On va s'attacher à relativiser l'ampleur des troubles. Il ne s'agit pas de mentir aux patients, mais il va falloir rassurer les patients et aussi l'entourage. Un travail est possible, du moins durant les premières années, un travail intéressant. Des conseils d'accompagnement pourront être donnés aux proches tout au long de la maladie. Et la prise en charge, qui ne pourra être proposé aux patients que s'il est demandeur, constitue à la fois un soutien psychologique et une stimulation cognitive. On va s'attacher à définir les objectifs de la prise en charge avec notre patient. Dans un premier temps, c'est vrai, nous l'avons déjà entendu ce soir, il est possible d'observer une amélioration des possibilités de communication avec cette prise en charge chez le patient. Mais on vise surtout à une stabilisation des troubles. Puis, lorsque la maladie aura évolué, il s'agira de s'adapter aux difficultés du patient et de proposer des exercices moins difficiles. Une fois ces préalables établis, le travail orthophonique va commencer. Je propose aux patients de choisir un cahier, choisir le format, la couleur. C'est toujours un moment apprécié des patients. Ce cahier sera la propriété du patient, c'est-à-dire qu'une fois qu'un cahier sera rempli, le patient pourra le garder avec lui. Il n'appartient pas à l'orthophoniste, ni même au dossier du patient, au cabinet de l'orthophoniste. Le patient donc possède ce cahier, le rapporte à son domicile, et à ce titre, le cahier constitue un lien entre le domicile et le cabinet. Il peut être complété par la famille si le patient le souhaite, pour donner des informations au thérapeute éventuellement, ou pour compléter des informations données par le patient. Les premières pages du cahier se ressemblent puisqu'on demande au patient de noter lors de la première séance la date, son nom et son prénom. On lui dicte également le nom, le prénom, l'adresse professionnelle et le numéro de téléphone de l'orthophoniste. Il ne faut pas oublier que ces patients, au départ, conservent une autonomie et donc, dans un premier temps, ils vont pouvoir venir seuls au cabinet de l'orthophoniste. Puis, on procède au recueil de données personnelles précises du patient, comme son âge, sa date de naissance, son activité professionnelle. Ce sont des patients retraités, mais on s'intéresse à la profession qu'ils ont exercée, à leurs conjoints, aux enfants, aux petits-enfants, aux loisirs, au centre d'intérêt, etc. Il est important de bien connaître son patient. Lorsque les troubles auront évolué et lorsque la communication verbale sera empêchée par l'évolution de ces troubles, si l'on connaît bien son patient, il suffit parfois de peu d'indices verbaux pour savoir sur quel sujet de conversation le patient se dirige. Et donc, on peut ainsi maintenir une communication plus longtemps. Une fois ces données renseignées, ces données personnelles renseignées, ce qui peut prendre plusieurs séances, eh bien, je vous ai noté ici un exemple de séance. En général, je vais m'enquérir de l'état de mon patient dans un premier temps. Comment va-t-il ? Séquence que l'on peut appeler l'humeur du jour. Le patient est invité à noter son humeur sur le cahier après avoir noté la date, qu'il se fait toujours par repérage sur un calendrier quand le patient ne peut plus nommer les jours, les mois, les années. Puis on invite le patient à l'évocation orale d'un souvenir personnel. Alors je peux vous donner en exemple une patiente qui était arrivée très enthousiaste à mon cabinet et qui avait à me raconter une sortie qu'elle avait faite avec sa petite fille, sortie à la piscine. Elle l'avait accompagnée, c'était un événement important pour elle. Elle ne retrouvait plus le mot piscine, elle donnait peu d'informations à l'oral, mais elle avait mimé les mouvements de natation et progressivement, on avait reconstruit ce souvenir à l'écrit avec elle. Donc on avait mis en forme le souvenir, c'est-à-dire nous avions écrit la date de la sortie, le moyen de transport pour se rendre à la piscine, où se situait la piscine, on avait recherché sur le calendrier des PTT. On avait écrit l'activité telle qu'elle s'était passée en quelques lignes. Bien sûr, cette évocation se fait avec l'aide de l'orthophoniste et la mise en forme à l'écrit se fait sous la dictée de l'orthophoniste, plus ou moins. Le patient donne son accord et on cherche à communiquer avec le patient et non pas à lui imposer des phrases et de faux souvenirs. Ça n'est pas le but. Une fois ce souvenir reconstitué, on peut travailler sur l'évocation de mots à partir de champs sémantiques. Alors, puisque ça fait quelques minutes maintenant que je vous parle de piscine, allez, une personne qui se trouve devant, eh bien, non pas vous, si, tant pis, on va évoquer l'un à la suite de l'autre, des mots qui vous font penser au mot piscine. Il va falloir que vous parliez fort, ou alors je vous prête mon micro. Allez-y. Maillot de bain. Alors je vais dire entrée. Maître nageur. Plongée. Alors eau. Voilà, merci de votre participation. On continue, vous me disiez.
Eau.
Eau, voilà. Baignade.
Ligne.
Rigoler.
Ruisseler.
Crawl.
Brasse.
Bactérie.
Bonnet.
Bon, etc., etc. Merci beaucoup. Merci. Donc, on peut faire ce type d'exercice. Vous avez vu que, bien sûr, la personne qui a participé répond rapidement. Ça n'est pas le cas de nos patients. J'ai introduit aussi dans l'échange des mots peut-être inattendus. Alors, après cet exercice-là, on va reprendre les mots qui viennent d'être évoqués par écrit. On va les écrire sous dictée. Il ne s'agit pas d'un exercice de mémoire, mais chaque mot va être expliqué, illustré par un dessin de l'orthophoniste ou du patient s'il connaît le mot, ou accompagné d'une image, l'idéal étant de fournir plusieurs images pour un même mot pour renforcer l'imagerie mentale. On s'appuie également sur les mimes. Lorsqu'on a constitué une banque d'images intéressantes sur un thème particulier, on va également demander aux patients de faire un tri d'images et de sélectionner les images qui se rapportent au thème. On va lui demander d'argumenter son choix, s'il est capable d'argumenter, ou bien on va argumenter avec lui, ou encore on argumentera à sa place. On peut également constituer des mémories, mots, images. On peut bien sûr faire tous les exercices dont on vous a parlé précédemment, des exercices de recherche de synonymes, de contraires, des générations de phrases, etc. Les exemples sont variés, bien sûr. À propos du memory et à propos de cette même patiente, elle avait rapporté ses images et ses mots à son domicile pour jouer au memory avec sa petite fille, justement. Alors, d'autres pistes pour d'autres séances. Bien sûr, les thèmes évoqués sont nombreux. Ils dépendent des patients, ils dépendent de leur centre d'intérêt. Je vous en ai mis quelques exemples, mais la liste n'est pas exhaustive. À partir des exercices déjà cités, on peut constituer également des aides pratiques. Je pense à une autre patiente qui, après quelques années d'évolution de la maladie, avait repris son premier cahier, était revenue avec ce cahier et me rapportait le thème des courses sur lequel nous avions travaillé. Et elle me disait que la plupart des mots ne lui disaient plus grand-chose et qu'elle avait du mal à faire ses courses parce que le conjoint lui laissait une liste et elle ne connaissait plus le sens des mots. Donc nous avions repris le thème des courses que nous avions travaillé. On avait un support écrit et on avait donc son ordre de passage dans les rayons qui était toujours le même, comme tout un chacun d'ailleurs, nous avons tous nos habitudes. C'était facile d'établir une liste, mots, images, et elle a pu encore, pendant un certain temps, continuer à faire ses courses de manière favorable. Certains patients utilisent aussi le cahier pour étiqueter les objets du quotidien. Je pense ainsi à un monsieur qui, dans sa cuisine, avait étiqueté le frigo, la poubelle, le balai, l'évier, etc. Bien sûr, il est intéressant de pratiquer des relectures du cahier avec le patient pour s'assurer que les séquences déjà travaillées évoquent toujours quelque chose avec le patient. Ce sont des souvenirs empreints d'émotions et il est toujours intéressant d'y revenir. L'utilisation de ce cahier a des supports théoriques et ainsi, selon Damasio, dans l'erreur de Descartes, il nous rapporte qu'il est important de prendre en compte les interactions qui existent entre l'organisme et l'environnement si l'on veut comprendre les phénomènes mentaux. En effet, le cerveau reçoit des informations du corps, mais aussi de certaines de ses propres régions cérébrales. À partir de ces informations, des images visuelles, des images auditives vont être constituées. Ce sont des réponses internes, il en existe bien d'autres. Damasio nous souligne également qu'il n'existe pas de centre unique du langage, ni de centre unique du raisonnement, ni de centre unique du comportement social, mais qu'il existe des systèmes composés d'unités cérébrales reliées entre elles, qu'il appelle zones de convergence. Et je pense que l'on comprend mieux pourquoi il est important de proposer aux patients une prise en charge multimodale. Si l'on revient à notre patiente avec sa petite fille, pour que l'image de sa petite fille apparaisse dans son esprit, soit évoquée dans son esprit, il faut une activité neuronale au niveau des aires visuelles, et le visage de la petite fille va être reconstitué de manière incomplète et fugace par cette activité neuronale dans les zones visuelles. Il va en être de même pour la reconstruction de la voix de la petite fille avec une activité neuronale dans les zones cérébrales auditives. On voit ainsi que l'ensemble de la petite fille en tant que personne complète ne siège pas en un seul site unique du cerveau, mais bien dans l'ensemble du cerveau de manière distribuée, pourrait-on dire. C'est pourquoi il nous paraît important de proposer une prise en charge multimodale à nos patients qui fait intervenir tous les canaux sensoriels du patient, et également il est important de leur proposer des évocations d'expériences de vie uniques pour chacun. Ainsi, on donne un sens à la prise en charge orthophonique, mais on propose aussi aux patients une stimulation cognitive, on l'a dit, et aussi une stimulation émotionnelle. Il me semble que l'un ne va pas sans l'autre. Et ce sera ma conclusion. N'oublions pas que le langage, que l'on dit spécifique à notre espèce, qui est un moyen de communication privilégié, qui est aussi un signe de reconnaissance et d'appartenance à une communauté, à une culture, va peu à peu se désagréger dans l'aphasie primaire progressive et atteindre le patient jusque dans son âme, pourrait-on dire. Alors il me semble que, en tant que professionnel du langage, il ne s'agit pas de dispenser auprès de nos patients des techniques de rééducation, mais bien de maintenir une communication aussi longtemps que possible avec ses patients et d'aider l'entourage à optimiser ses moyens de communication avec leurs proches. Merci de votre attention.
Donc, bonjour à tous. Pour ma part, je vais vous parler plus particulièrement ce soir des symptômes langagiers que l'on peut observer dans la maladie d'Alzheimer, et plus précisément donc, de fluence contextualisée, d'anomie et de manque du mot. Donc, pour Cardeba, les anomies, qu'on appelle aussi manque du mot, sont le premier symptôme de l'atteinte linguistique chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, en parallèle, bien sûr, des symptômes mnésiques. Donc, le manque du mot pour le patient atteint de la maladie d'Alzheimer peut se définir comme l'incapacité d'accéder aux mots qu'il souhaiterait produire dans son discours pour transmettre à son interlocuteur son message oral. Donc, au sein de son discours, le patient va mettre en place des compensations par des périphrases ou des circonlocutions qui sont en fait des phrases ou des groupes de mots qui vont tourner autour du sens du mot qu'il aurait souhaité produire pour transmettre tout de même son message à son interlocuteur. Certains patients peuvent produire également ce qu'on appelle des paraphasies, qui sont finalement le fait de produire un mot pour un autre. Donc ça pourra être par exemple un mot de sens proche, par exemple appartenant à la même catégorie sémantique, ou un mot de forme phonologique proche, qui commencera par exemple par la même lettre ou par la même syllabe. Alors, au sein des bilans orthophoniques, lorsqu'en parallèle des symptômes nésiques, on retrouve des symptômes langagiers, on pourra observer des troubles de fluence verbale. Chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, on pourra retrouver à la fois des troubles de fluence littérale, c'est-à-dire que le patient aura des difficultés à évoquer des mots commençant par la même lettre. Et on pourra aussi retrouver des troubles de fluence sémantique, c'est-à-dire que le patient aura des difficultés à évoquer des mots appartenant à la même catégorie sémantique. Au sein des troubles de fluence sémantique, Martin et Fedio ont mis en évidence une détérioration assez caractéristique chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, qui se nomme la détérioration de type bottom-up. Cette détérioration de type bottom-up, c'est en fait la tendance chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer à évoquer plus particulièrement les mots les plus généraux de notre lexique et petit à petit à mettre de côté les mots les plus précis. C'est-à-dire que, par exemple, si on demande à un patient atteint de la maladie d'Alzheimer de nommer un maximum de noms d'articles de supermarché, il évoquera plus facilement les grandes classes d'articles, comme les fruits ou les légumes, et il laissera plutôt de côté les items plus précis qu'on pourrait trouver à l'intérieur de ces catégories. Et cette détérioration-là, cette tendance-là, elle est visible donc à la fois dans les tests de fluence, mais aussi dans leur discours en général. On va s'apercevoir que leur discours va devenir de plus en plus vague, de plus en plus imprécis. Alors, ce type de troubles langagiers, les troubles de fluence verbale, ne constituent qu'une partie des troubles langagiers que l'on peut observer dans la maladie d'Alzheimer. Et pour ces types de troubles-là, je vous propose un exemple de rééducation orthophonique qui pourrait être mise en place, à savoir donc pour grand axe de travail, le fait de solliciter et de stimuler la mémoire sémantique. Donc la mémoire sémantique qui concerne les mots et les concepts qui sont associés à ces mots. Au sein de cet axe de travail, on pourra proposer par exemple de travailler sur le maintien de l'accès aux mots. On pourra travailler à évoquer des mots à partir d'une même syllabe ou d'une même lettre. On pourra aussi proposer aux patients on pourra rechercher en tout cas plus de précision dans son vocabulaire. Par exemple, on peut travailler sur des expressions de la vie courante, comme faire la vaisselle, et chercher un vocabulaire plus précis autour de ces expressions. Nettoyer, asperger, savonner, arroser, rincer, etc. Au sein de cet axe de travail également, on pourra proposer un travail autour du sens ou de la sémantique en général. Par exemple, à travers une liste de mots, pouvoir retrouver le nom de la catégorie, retrouver des définitions précises de mots ou classer, retrouver d'autres catégories possibles pour certains groupes de mots, etc. Donc voici un tout petit échantillon des exercices de stimulation langagière qui pourraient être proposés à un patient souffrant de la maladie d'Alzheimer en séance. Moi, ce soir, je voudrais axer mon propos sur l'apport de la contextualisation au cours de tous ces exercices que l'on peut proposer en orthophonie. Et pour cela, je voudrais vous présenter mon mémoire de fin d'études d'orthophonie, qui a été réalisé donc dans l'unité de neuropsychologie et rééducation du langage du CHU de Poitiers, et donc qui a étudié l'impact de la contextualisation, c'est-à-dire de la référence au vécu, de la référence au souvenir sur les performances langagières des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Avant de vous expliquer exactement comment s'est déroulée cette étude, je voudrais juste revenir avec vous sur quelques petits points théoriques. D'abord, vous parlez de la nécessité de distinguer la mémoire donc sémantique, qui concerne les mots et les concepts associés à ces mots, de la mémoire épisodique, qui concerne les événements et les souvenirs, le vécu de la personne. Je voudrais vous présenter également la théorie épisodique d'accès au sens de Mesulam et Damasio, qui considère en fait le système sémantique comme un réseau constitué de nœuds, qu'on appelle aussi zones de convergence. Au sein de ces nœuds se regroupent des informations qui émanent des expériences vécues. Ce sont des informations sensorielles et émotionnelles. Le regroupement de ces informations au sein des nœuds permet que les expériences, les souvenirs, soient intégrés en mémoire épisodique. Et que de nouvelles connaissances, de nouveaux mots, de nouveaux concepts soient intégrés en mémoire sémantique. Pour Mesulam et Damasio, le fait d'évoquer un mot, d'y avoir accès, que ce soit au sein des tests de fluence ou dans une conversation au quotidien, c'est réactiver au sein des nœuds ces informations sensorielles et émotionnelles, revivre l'expérience en mémoire épisodique, et ainsi avoir accès aux mots et aux concepts en mémoire sémantique. C'est-à-dire que cette théorie donne un rôle prépondérant à la mémoire épisodique, donc au vécu, au souvenir, dans l'accès aux mots et aux concepts. Et donc c'est sur cette théorie que s'est basé mon mémoire de fin d'études d'orthophonie, qui s'intitule « Fluence sémantique et renforcement épisodique dans la maladie d'Alzheimer ». Donc dans ce mémoire, nous avons observé les performances en fluence sémantique de patients atteints de la maladie d'Alzheimer et tenté d'évaluer l'impact de la référence au vécu sur ces performances-là, sur ces performances langagières. Et nous avons observé en fluence sémantique le degré de précision des mots produits. Alors, pour observer tout ça, nous avons utilisé deux types de tests. Tout d'abord, le test du supermarché, qui est un test de fluence sémantique classique, dans lequel on demande au sujet testé, pendant un temps limité, de donner un maximum de noms d'articles de supermarché. Et nous avons également utilisé le test de la fluence de Noël, qu'on a appelé fluence sémantique contextualisée, qui est un test pendant lequel nous avons demandé au sujet testé de donner un maximum de mots pouvant se rapporter à la catégorie de Noël, mais cela en s'aidant du souvenir de leur dernier Noël passé. Et donc c'est véritablement ce test-là qui nous a permis d'étudier l'influence de la référence au vécu sur les performances langagières des patients. Au niveau des résultats obtenus au test du supermarché, on peut retrouver une tendance chez les patients à évoquer plus de mots généraux, plus de superordonnées que les témoins. Alors qu'à la fluence de Noël, eh bien, les patients ont des performances quasi équivalentes à celles de nos témoins. On a pu également mettre en évidence que 70% des patients ont obtenu de meilleurs résultats à l'affluence de Noël plutôt qu'au test du supermarché. C'est-à-dire que 70% des patients ont produit plus de mots précis lorsque une référence au vécu leur a été proposée. Donc cette référence au vécu au cours des séances d'orthophonie, en fait, elle se met en place de façon assez naturelle au fur et à mesure que chaque orthophoniste fait connaissance avec son patient. Mais il est intéressant de montrer qu'elle peut vraiment être considérée comme un outil thérapeutique, à la fois parce qu'elle va permettre de travailler sur le déficit sémantique et langagier qui est visible donc au sein de la maladie d'Alzheimer, mais aussi parce qu'elle va permettre de recentrer l'individu au sein des projets de rééducation, de replacer la personnalité du patient, ses goûts, son vécu au sein de nos séances. Et au quotidien, pour l'entourage, lorsqu'au sein du discours de la personne souffrant de la maladie d'Alzheimer, eh bien, on a un discours plutôt vague, imprécis, et que la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer est face à un manque du mot, on peut aussi faire appel à un souvenir, recontextualiser les choses, faire appel à une habitude, pour rediriger l'attention de la personne malade vers un champ sémantique en particulier, et sans pour autant, autant que possible, se substituer à son discours et lui donner un mot soi-même. Voilà. Et puis, la référence au vécu, c'est aussi pouvoir tenter de pallier la perte de repères identitaires qui peut se voir au fil de la maladie. Je vous remercie de votre attention.
Bonsoir. Alors, en ce qui me concerne, je viens vous parler ce soir des thérapies de groupe en orthophonie telles qu'on peut les proposer dans le cadre des pathologies neurodégénératives de type maladie d'Alzheimer. Alors, pour commencer, je voulais vous parler des structures dans lesquelles ces thérapies de groupe pouvaient avoir lieu. Elles peuvent se faire en hôpital, dans le service de rééducation du langage à Poitiers. On propose par exemple quelques groupes. Ça peut aussi se faire en accueil de jour. Alors c'est souvent dans les accueils de jour en gériatrie. Ce type de groupe peut être proposé aussi dans les structures d'accueil telles les EHPAD, soit par une orthophoniste salariée, soit par une orthophoniste libérale qui intervient au sein de ces structures. On peut enfin proposer les groupes en cabinet libéral, au même titre que les rééducations individuelles. Alors, en ce qui concerne les intervenants pour ces thérapies de groupe, il y a bien sûr les orthophonistes qui sont axés sur le langage et plus particulièrement sur la communication, mais comme on a pu le voir tout au cours des interventions, sur globalement les fonctions cognitives et notamment la mémoire qui est au sein de cette maladie. Mais il est possible de faire ces groupes en association avec d'autres professionnels. Ce soir, on parle de l'orthophonie, mais il y a d'autres professionnels qui interviennent auprès des patients et des familles de patients Alzheimer. Alors, par exemple, les psychologues qui peuvent aussi intervenir dans l'approche psychologique, notamment vis-à-vis du ressenti et des émotions dans la maladie d'Alzheimer. Avec des ergothérapeutes qui sont là principalement pour travailler sur l'aménagement de l'environnement et des outils que peuvent utiliser les personnes, ou encore les psychomotriciens ou les kinésithérapeutes, comme dans certaines thérapies que Madame Pluchon évoquait tout à l'heure, notamment les thérapies de mouvement. En ce qui concerne la population de ces groupes, on intègre dans ces groupes des personnes pour lesquelles le diagnostic de maladie dégénérative de type maladie Alzheimer a été posé. Nous proposons ces groupes principalement à des patients qui sont à un stade léger ou modéré. Alors, il faut savoir qu'il existe aussi d'autres thérapies qu'on peut proposer quand la maladie est un petit peu plus avancée. On rentre plus dans ce cas-là, dans le cadre des thérapies psychosociales. Je prendrai l'exemple de la thérapie écosystémique qui est proposée par Thierry Rousseau, qui est orthophoniste. Et là, le principe est plus en fait d'alterner une séance individuelle avec le thérapeute, enfin entre le thérapeute et le patient, et une séance avec le thérapeute, le patient et l'aidant, en fait, à viser de faciliter la communication et de prévenir les troubles du comportement qui peuvent survenir quand la communication commence à se faire plus difficile. Pour ces groupes, nous avons choisi d'apparier les patients en fonction de leur âge. Vous savez que la maladie d'Alzheimer peut survenir à différents âges de la vie, plus ou moins précocement. C'est plus facile lorsque les personnes ont un âge proche. En fonction du niveau socio-culturel, on va être dans la communication, on va être dans le langage. Trouver en fait des champs d'intérêt communs va faciliter le travail de groupe. Et enfin, on utilise une des épreuves qui fait partie du bilan neuropsychologique, donc le MMS, qui nous permet d'avoir une idée du niveau global du patient. Ça permet de regrouper les patients à peu près par niveau, pour ne pas se retrouver avec des patients qui auraient plus de difficultés et des patients encore préservés. On essaye au maximum d'intégrer les aidants au travail de groupe. Alors, on peut proposer aux aidants de venir voir ce qui se fait dans ces groupes. En tout cas, dans les premiers stades de la maladie, certaines personnes l'ont peut-être déjà vécu. On peut être impressionné quand on voit son proche, son malade, interagir avec des voisins, certaines personnes de la famille un peu éloignées, qui, dans un premier temps, ont une conversation avec la personne malade et vous diront « Tu es sûr qu'il est malade ? Moi, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. » Dans ce type de groupe, on peut retrouver, par certains moments, effectivement, une efficience en fait, de la communication et ça permet aussi pour les aidants de voir de quoi est encore capable leur proche. Et pour une fois, le proche se retrouve vraiment en situation d'acteur, de participant, et on occulte un petit peu, si on peut dire, le côté malade. On peut bien sûr, pour les aidants, être là, alors plutôt à la fin du groupe, pour répondre aux questions qu'il pourrait y avoir sur les moyens de communiquer mieux avec, avec le proche, ou alors de mettre en place des aides externes dont on a parlé tout à l'heure. Je prendrai l'exemple, par exemple, de la machine à laver. Quelqu'un qui aurait des difficultés pour utiliser la machine à laver, on peut mettre en place, par exemple, un petit papier guide explicatif simplifié pour pouvoir permettre à la personne de continuer malgré tout à utiliser dans la vie quotidienne la machine à laver en l'occurrence. Les objectifs de ces groupes, alors je vais faire un petit rappel en fait dans la nomenclature des orthophonistes qui est en fait le code des actes orthophoniques. Il est précisé que l'orthophoniste a un rôle de maintien et d'adaptation des fonctions de communication dans le cadre des pathologies neurodégénératives, et ceci en séance individuelle ou en groupe. Alors, avant de vous présenter les objectifs, j'étais un petit peu vite, je vous citerai une phrase de Wilson que je trouve très juste, concernant la prise en charge en fait des patients souffrant de difficultés de mémoire et de langage. Il a parlé de cette prise en charge comme toute stratégie ou technique d'intervention qui permette à une personne et à ses aidants de vivre avec, de s'arranger avec, de contourner, de comprendre et, quand cela est possible, de réduire les troubles de la mémoire. Donc les objectifs sont bien sûr de favoriser le maintien de l'autonomie le plus longtemps possible en vie quotidienne. La communication fait évidemment partie de ce maintien de l'autonomie. Comme on l'a vu tout à l'heure, dans les groupes, on va proposer de mobiliser les fonctions cognitives préservées. Alors, à partir des bilans qui ont été faits au niveau du langage, des bilans neuropsychologiques, on va pouvoir se rendre compte de ce qui fonctionne encore chez les personnes et on va s'appuyer sur ces fonctions qui sont préservées pour pouvoir utiliser au mieux les capacités et de mémoire et de langage. On va en parallèle développer les stratégies de compensation. Ça peut être l'utilisation d'aides externes, ça peut être aussi l'utilisation de l'environnement ou des petites techniques que le patient va pouvoir au fur et à mesure développer et s'approprier pour pouvoir, lorsqu'il est mis en difficulté, par exemple dans une situation de communication, pallier cette difficulté. Les groupes sont importants pour le rôle social en fait qu'ils apportent. Comme je disais tout à l'heure, le patient se retrouve mis en situation de groupe et donc en situation de personne, d'acteur. Petit à petit, on peut constater chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer un retrait en fait de la vie sociale. Le groupe permet aussi de continuer cette vie sociale. Et par de la même, limiter l'isolement et de la personne malade et de son environnement. La maladie d'Alzheimer est une maladie, comme on le sait, qui évolue au fur et à mesure du temps. Les capacités langagières, mais aussi les capacités cognitives ont tendance à s'amoindrir. Les orthophonistes sont là aussi pour accompagner et le malade et l'entourage dans l'avancée de cette maladie. Alors, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients d'une prise en charge de groupe. Donc, il s'instaure souvent une dynamique d'échange. Évidemment, on est en groupe, c'est plus facile que quand on est en situation duel. Ces situations d'échange de groupe sont en général plus stimulantes pour le patient. Il se retrouve avec des personnes d'une même génération, d'un même âge, ils ont des souvenirs communs et ça permet d'échanger et de rentrer aussi en communication plus facilement. Les situations sont plus écologiques. Alors, ce terme d'écologique, en fait, signifie plus proche de la vie quotidienne. Effectivement, on est en situation de groupe, donc on salue les personnes avec qui on va faire le groupe. Il y a tout un respect des conventions sociales, des formules de politesse qui se présentent dès qu'on est en société. Et puis, enfin, des conversations spontanées qui émergent aussi durant ces groupes. Ces groupes permettent de créer et d'entretenir un lien social. En général, les groupes qui sont constitués durent dans le temps. Les personnes qui participent à ces groupes sont toujours les mêmes. Et il y a vraiment un lien qui se crée entre les personnes. Les échanges sont multifacettes. En fait, lors des groupes, on retrouve plusieurs variétés d'échanges. Alors, les patients sont amenés à échanger avec le thérapeute, mais dans le cadre des groupes, ils travaillent aussi en binôme, voire avec le groupe élargi. Ça permet de favoriser la multiplicité des échanges tels qu'elles peuvent être en fait dans la vie quotidienne. On n'est pas toujours l'aidant uniquement avec le patient, ou alors on peut se retrouver dans des situations ou des repas de famille ou ce genre de situation où là, la personne va devoir gérer avec le groupe. On a parlé tout à l'heure de l'anosognosie. Alors, c'est vrai que les patients qui souffrent de maladies d'Alzheimer ne sont pas toujours conscients de leurs troubles, excepté, comme on l'a dit, pour les patients pour lesquels il y a un départ focal avec une atteinte centralisée sur un des aspects, par exemple le langage ou par exemple au niveau des gestes. En situation de groupe, les patients sont amenés à prendre conscience que parfois il y a des choses qui dysfonctionnent chez eux, qu'il y a des choses qui dysfonctionnent aussi chez les autres participants des groupes. Ça leur permet petit à petit aussi des fois de prendre conscience en fait de certaines difficultés, tout en étant dans un cadre qui est assez rassurant. Ah oui, dis donc, moi je me rends compte, la mémoire, c'est pas toujours ça. Ah oui, moi aussi. Voilà, c'est l'occasion d'en parler un petit peu. Et puis aussi, de parler de cette maladie d'Alzheimer. Parce que si certains patients sont au courant de leur diagnostic, certains patients ne souhaitent pas forcément connaître ce diagnostic. Et ça permet petit à petit aussi d'approcher ce mot qui fait un petit peu peur. Et de pouvoir en discuter, en fait, lors des séances, en relativisant. Certes, on peut présenter des difficultés, mais on est toujours capable de communiquer et capable de faire des choses ensemble. Les inconvénients de la prise en charge de groupe, évidemment, l'individualisation, sera moindre. On va être obligé de gérer avec le groupe et de moins prendre en compte spécifiquement les atteintes que peuvent présenter certains patients. Il y a aussi ce qu'on peut appeler un effet groupe. Les patients qui présentent une maladie d'Alzheimer sont souvent des patients plutôt âgés, qui peuvent présenter une hypoacousie, ou autrement dit, une atteinte au niveau de l'audition. Et c'est vrai que la situation de groupe n'est pas toujours la plus favorisante, puisque quand il y a des échanges entre plusieurs personnes, ça peut être plus compliqué à suivre. On a dit aussi tout à l'heure, les patients présentant une maladie d'Alzheimer ont plus de difficultés au niveau de l'attention, et ça peut être difficile de focaliser son attention sur une conversation, notamment quand il y a des perturbations. Je citerai quand même une étude de Ruffini et Elnadi, parue en 1989, qui concernait en fait les groupes de patients. Cette étude a montré qu'il y avait un effet positif, en fait, une favorisation des apprentissages lorsque les patients coopéraient entre eux. Alors, l'idéal serait de pouvoir proposer en fait aux patients une prise en charge individuelle et une prise en charge de groupe. Alors, il existe différentes prises en charge de groupe. Je vais revenir un petit peu sur ce qui est existant. Alors, la première est une thérapie d'orientation par la réalité. En fait, cette thérapie a pour but l'amélioration de l'orientation spatio-temporelle chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. On sait que l'orientation dans l'espace et l'orientation dans le temps sont des choses qui sont assez rapidement difficiles chez ce type de patients. Dans ce type de rééducation de groupe, on propose en fait un rappel continu des informations sur le temps, mais aussi sur le lieu, et aussi des informations propres à chaque personne. Il existe ensuite la thérapie de la réminiscence ou thérapie du souvenir, dont s'est inspirée par exemple Brigitte Marcotte, qui est orthophoniste, pour ses groupes de parole et de communication. Donc, comme le disait Madame Pluchon tout à l'heure, en fait, on réunit les patients, et le principe consiste à évoquer des souvenirs personnels à partir de supports soit fournis par les patients, soit des supports qui peuvent être fournis par les orthophonistes et qui peuvent être des souvenirs en commun. Donc à ce moment-là, ça sera tout un travail à partir de photos, à partir de musique, de poèmes, mais aussi d'objets. Et enfin, la stimulation cognitive, qui peut être aussi proposée en individuel et qui a pour objectif de stimuler les capacités préservées et de développer les stratégies de compensation. Alors, je vais vous donner l'exemple du déroulement d'une séance de groupe telle qu'on peut les proposer dans les groupes qu'on organise dans le service de rééducation du langage à Poitiers. Alors, je tiens à vous dire qu'il est important pour ces groupes qu'on institue une régularité pour les horaires, pour le lieu, pour l'intervenant et pour les participants. Ça permet de constituer en fait des repères plus stables pour le patient, et ces repères sont importants. Ça instaure aussi un climat de confiance. Le patient sait qu'il va venir avec des personnes qu'il connaît au fur et à mesure, le cadre est posé. On propose des séances d'une durée d'une heure environ, pas beaucoup plus, parce qu'au niveau de l'attention, ça commence à devenir plus difficile. Et au niveau du groupe, on propose des groupes environ 5 patients pour un soignant. Alors, on commence toujours ce groupe par un tour de table. C'est l'occasion de prendre un petit peu des nouvelles de chacun. Ce temps est dédié donc au contact social. On rappelle les prénoms de chacun aux besoins. On demande des nouvelles des absents. Alors, c'est étonnant de voir comme certains patients peuvent avoir des difficultés de mémoire et peuvent réussir à mémoriser certaines informations. Je prendrai l'exemple de certains patients qu'on a dans le groupe qui étaient capables de se souvenir que son voisin, avec qui il échangeait beaucoup, possédait une maison en Bretagne, et dès que celui-ci était absent, il demandait s'il était parti faire des travaux dans sa maison en Bretagne. Voilà, il y avait vraiment une mémorisation qui a pu se mettre en place. Ça permet aussi de revenir sur des éléments de mémoire épisodique, c'est-à-dire des éléments qu'ont vécu les patients ou des projets qu'ils ont. Le fait de savoir qu'on va en parler, ça revêt une certaine importance, et les patients mettent aussi en projet. Ils retiennent aussi un peu plus facilement de cette manière-là. On fait ensuite ce que j'appelle le calendrier animé. Donc en fait, chacun participe à hauteur de ses moyens à donner des informations à propos de la date. On peut utiliser le calendrier lorsque c'est difficile. Ce moment-là permet aussi de parler des fêtes, de donner des structures, des repères temporels aux patients. Et c'est encore une fois l'occasion de se remettre en contexte. Souvent, les fêtes dans l'année donnent lieu à des événements familiaux. Si je prends l'exemple, je ne sais pas, de Noël, les gens se rencontrent et ça permet aussi de mémoriser plus facilement et de parler à propos de ces événements-là. On propose ensuite des exercices qui font partie plus de la stimulation cognitive. Donc on propose des exercices langagiers. Alors il y a un travail linguistique qu'on peut dire un petit peu plus classique, comme on a évoqué tout à l'heure. On recherche des synonymes, des antonymes, on reformule des énoncés. On peut travailler aussi sur les explications de proverbes, travailler autour du vocabulaire, essayer d'évoquer des mots, de nommer des choses qu'on peut trouver dans une image, imaginer par exemple tout ce qu'on pourrait mettre dans une valise. On travaille aussi sur les définitions de mots. Où il faut là mettre en place certaines stratégies. Alors pour les définitions, on propose aux patients en général de travailler en équipe. Les patients se complètent ainsi et ont un rôle de support les uns envers les autres. C'est là qu'on se rend compte que, en fait, à tour de rôle, ils peuvent être placés en situation d'aidant ou alors en situation d'aider. Et vous saurez, en tant qu'aidant, que parfois c'est pas toujours évident. On peut aussi avoir des patients qui rejettent un petit peu notre aide parfois. Ils sont dans une situation où d'autres ont aussi des difficultés, et le fait de pouvoir à certains moments être eux-mêmes aidants favorise en fait l'acceptation de l'aide au moment où c'est plus difficile pour eux. Dans ces exercices langagiers, on propose aussi des exercices de mise en situation. En fait, on joue un petit peu des scènes de théâtre. Je vous présenterai tout à l'heure une situation qu'on peut donner aux patients et on joue véritablement la scène. On peut organiser aussi des mini-débats. Alors, on suit par exemple des événements d'actualité, on commente ces événements, on argumente, chacun donne son avis. On peut proposer des exercices mnésiques, donc pour travailler la mémoire. Alors, ça peut être la mémoire à court terme, la mémoire de travail. On essaye d'utiliser des stratégies de facilitation pour la mémoire dont on a parlé tout à l'heure, en utilisant des béquilles mnésiques. On essaye d'inciter les patients à fabriquer des images mentales quand il faut mémoriser quelque chose, se représenter par exemple une scène quand on a un texte par exemple à mémoriser. On peut passer par le corps, essayer de mettre en geste pour pouvoir aussi mémoriser plus facilement, ou encore utiliser certains souvenirs qui nous reviennent. « Ah oui, je dois mémoriser quelque chose, ça me rappelle ça, donc je vais me servir de ce souvenir qui est là pour pouvoir mémoriser l'information. » On constate souvent, en fait, en mémoire de travail, que les patients atteints d'une maladie d'Alzheimer ont une certaine précipitation. Ils veulent exécuter l'opération en même temps qu'ils veulent mémoriser. Donc on essaye de travailler avec eux aussi l'organisation des tâches. Premièrement, je mémorise. Ensuite, j'effectue l'opération que j'ai à mémoriser. Par exemple, si on prend une tâche, on veut ranger des dates de naissance dans l'ordre. D'abord, je mémorise la date de naissance et ensuite, je les organise, les unes par rapport aux autres. Donc, dans les exercices de mémoire qu'on peut proposer, on peut utiliser des tâches d'épellation. On épelle un mot à l'endroit, à l'envers. On peut ranger des nombres par ordre croissant, classer des mots par ordre chronologique, compter le nombre de fois où apparaissent tel son ou tel mot dans une phrase. On propose aussi des exercices gestuels, soit à partir d'images, soit à partir de textes, soit directement à partir des objets. Donc on réalise des séquences de mimes. On peut aussi essayer de deviner à quoi peuvent très bien servir l'objet. Et enfin, à partir d'un objet lambda, une bouteille d'eau par exemple, le patient peut être amené à mimer ce que pourrait être cet objet et les autres personnes doivent deviner. Au fur et à mesure de l'avancée, le patient ne peut plus toujours avoir l'idée et l'initiative de ce que pourrait être cet objet. On lui propose évidemment des aides. Comme tout à l'heure pour les définitions, on peut aussi proposer au patient un champ plus restreint pour lui permettre d'effectuer ce genre de travail. À partir de textes, on réalise des séquences qu'on peut appeler les films. On lit un texte où se déroule une action et comme tout à l'heure un petit peu dans les exercices de théâtre, on va mimer cette action au fur et à mesure. On peut proposer des exercices visuo-spatiaux. Donc en fait, on travaille des repères. Alors par rapport au calendrier, chercher à quelle date on va fêter tel saint, chercher quel jour de la semaine tombera l'anniversaire. On peut aussi rechercher des informations dans un magazine, par exemple le programme télévision, ou encore retrouver des mots parmi une liste, effectuer aussi des mots croisés. Dans ces groupes, on propose toujours une séquence souvenir avec plusieurs voies d'entrée. Donc on peut proposer tout simplement un thème à partir duquel on évoque des souvenirs personnels. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'un animal familier autour duquel on essaye de trouver des souvenirs. On peut travailler à partir de textes que les patients lisent et que nous reprenons plusieurs fois. Ça permet aussi de faciliter la mémorisation de ce texte. Ce texte peut être un poème, ça peut être une chanson. On essaye toujours de choisir quelque chose en rapport avec les thèmes de prédilection ou les intérêts des patients, quelque chose qui leur parle. On peut utiliser des photos, un paysage, une personnalité, une scène à partir de magazines qui vont permettre de prendre certains éléments et d'évoquer certains souvenirs. On peut partir aussi sur les odeurs. Les odeurs peuvent permettre de retrouver des souvenirs. Il y a certaines odeurs assez fortes, si on prend l'exemple de la lavande, qui peuvent évoquer, par exemple, un séjour en Provence, ou des odeurs de vanille qui feront penser à la cuisine et qui permettront aux personnes de retrouver des souvenirs. On anticipe toujours sur la séance suivante. On parle toujours de cette séance. Quand est-ce qu'on va se retrouver? À quel moment? Ça permet encore une fois de resituer, redonner des repères temporels aux patients. Et enfin, de clôturer la séance avec les formules d'usage. On se salue comme de coutume. Alors, je vous présente juste quelques petits exemples d'exercices qu'on peut proposer avec une fable que certains auront peut-être appris à l'école et qui reste assez présente en mémoire. Donc on peut présenter cette fable de La Fontaine. Tout d'abord, avec une première lecture, vous constaterez qu'il manque des mots. Donc on essaye de retrouver les mots qui manquent. Et pour ceux qui ne sont pas retrouvés, ben, on propose les mots et on essaye de retrouver leur place. Je vous parlais tout à l'heure des petites scènes théâtrales qu'on pouvait jouer, donc on peut imaginer ces scènes. Voilà, par exemple, vous allez chercher votre courrier comme tous les matins, et cela fait plusieurs jours que vous trouvez dans votre courrier des lettres qui sont destinées à votre voisin. Donc un des participants va se retrouver être la fameuse personne qui reçoit le courrier, et on peut faire intervenir un facteur et un voisin, et on joue la scène, on imagine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut dire au facteur? Les patients sont ainsi placés et en situation d'acteur et en situation de spectateur. Et on peut inverser les rôles et chacun amène son point de vue. Ça permet de travailler au niveau du langage, ça permet de travailler au niveau de la communication. Et là encore, ça peut permettre de faire appel. Souvent, c'est des situations que les gens ont vécues. Ils se replacent dans le contexte et ils imaginent dans la situation comment cela s'était passé. Dans la rubrique souvenirs, alors je ne vous chanterai pas cette chanson-là ce soir, mais on peut utiliser voilà, des chansons qui sont qui font partie du répertoire assez connu, et ça permet aussi, grâce à la mélodie, de retrouver certains mots. Certains patients qui, au fur et à mesure de l'avancée, ont des difficultés pour retrouver les mots, peuvent retrouver certaines paroles de chansons. Au niveau des bénéfices des groupes, pour terminer, comme on le disait tout à l'heure, dans la littérature, on ne retrouve pas grand-chose pour le moment. Ça reste encore assez difficile à évoluer. Mais ce dont on est sûr, c'est que les patients sont très motivés, sont demandeurs pour ces groupes dans lesquels ils retrouvent vraiment une place sociale, où ils sont vraiment considérés comme des individus communicants à part entière, avec des effets au niveau du comportement et au niveau de l'humeur, puisque pour certains patients, ils arrivent à se canaliser davantage, d'autres arrivent à s'ouvrir, retrouver une appétence à dialoguer. Et en ce qui concerne les aidants, comme on l'a dit tout à l'heure, on essaye de les intégrer donc au maximum dans la prise en charge. Ça leur permet de bénéficier de conseils, de pouvoir échanger avec les orthophonistes. Et ça permet aussi, pendant le temps où le patient est au groupe, d'avoir aussi du temps pour eux, ou alors pour ceux qui accompagnent leurs malades, de pouvoir discuter avec d'autres personnes qui sont dans la même situation. Voilà, je vous remercie.
Alors bonsoir, je vais mobiliser encore un peu vos ressources attentionnelles pour aborder la notion de prise en charge dans la maladie d'Alzheimer et le rôle de l'entourage dans cette prise en charge. En effet, dès la fin du bilan diagnostique, va se poser la question de la mise en place d'un traitement, d'une prise en charge orthophonique, de l'éventuelle participation à un protocole de recherche, puis plus tard, de l'entrée en institution. Répondre à ces différentes questions nécessite une prise de décision. Alors, qu'est-ce que la prise de décision ? Bergson a dit « vivre, c'est choisir ». En effet, le parcours d'une vie se situe autour de prise de décision. Prendre une décision, c'est faire un choix entre différentes actions possibles. Au quotidien, nous prenons sans cesse des décisions plus ou moins anodines, allant d'un questionnement banal « vais-je faire mes courses aujourd'hui ou demain ?» à plus important « dois-je vendre ma maison ?» Pour prendre une décision, nous utilisons nos capacités de discernement. Mon propos de ce soir va donc porter sur les prises de décision appliquées aux conséquences d'une maladie, c'est-à-dire décider de prendre ou non un médicament, d'entamer ou non une prise en charge rééducative, etc. Nous allons donc définir les capacités de discernement en vue d'un consentement. Marson les définit comme les capacités cognitives et émotionnelles des patients à accepter un traitement, le refuser ou à choisir entre différentes alternatives de traitement. Il prend l'exemple d'un traitement, mais il peut également s'agir d'autres situations comme une prise en charge orthophonique, la participation à un protocole, le consentement à un examen médical. Alors le discernement comprend, selon Fazel, deux aspects principaux. La prise de conscience de l'information, phase au cours de laquelle la personne doit pouvoir comprendre l'information fournie, manipuler cette information, raisonner et apprécier les conséquences de son choix. Parmi ces capacités, Gilles distingue l'appréciation des conséquences à long terme, sous-tendue par la mémoire prospective ou mémoire du futur, qui constitue l'enjeu de la prise de décision. Le deuxième aspect est l'expression du choix, qui constitue l'étape au cours de laquelle la personne doit pouvoir communiquer son choix et le maintenir dans le temps. Alors, le discernement fait appel à de nombreuses fonctions cognitives, comme le langage, pour ses fonctions de compréhension de l'information et d'expression d'un choix, la mémoire, pour l'encodage des informations et leur maintien dans le temps, et les fonctions exécutives, qui permettent le traitement des informations en vue d'une décision, à travers des processus tels que le raisonnement, la manipulation, l'appréciation des conséquences directes et indirectes d'un choix. Le discernement fait également appel aux fonctions émotionnelles qui préservent longtemps certains automatismes, certaines intuitions chez le patient atteint de la maladie d'Alzheimer. Alors, la maladie d'Alzheimer entraîne un double dysfonctionnement, et ce, dès le stade léger. Ainsi, il apparaît très tôt un déficit de mémorisation et de consolidation du souvenir en lien avec l'atteinte hippocampique, auquel s'associe une difficulté de projection dans l'avenir, de raisonnement et d'appréciation des conséquences d'un choix en lien avec le dysfonctionnement frontal. Les travaux qui ont étudié les capacités de décision dans la maladie d'Alzheimer ont montré que les capacités de discernement en vue d'un consentement, s'altérer en lien avec la progression de la maladie, et ce, de manière hétérogène. Il a été également observé qu'au stade léger et modéré de la maladie, les capacités d'expression et de maintien d'un choix sont préservées. Cependant, dès le stade léger, il apparaît des difficultés pour comprendre les buts, risques et bénéfices d'un choix, apprécier et raisonner sur les conséquences d'un choix et raisonner sur différentes alternatives de traitement. Une étude récente menée au sein de l'unité de neuropsychologie et rééducation du langage du CHU de Poitiers, dans le cadre d'un mémoire d'orthophonie, a montré l'impact de l'apathie sur la prise de décision. Donc l'apathie, c'est un trouble de motivation qui empêche la personne de se diriger vers un but en fonction à la fois de son expérience passée, de sa situation actuelle et du résultat attendu. L'apathie fait donc appel à la mémoire prospective. C'est un signe clinique observé dans différentes pathologies et fréquemment associé à la maladie d'Alzheimer. Elle peut être présente à tous les stades de la maladie et sa fréquence tend à augmenter avec l'évolution de la maladie. L'étude réalisée a donc montré un impact de l'apathie sur les capacités à raisonner sur les conséquences d'un choix et à comparer les alternatives possibles. L'apathie a également un retentissement sur les capacités à comprendre les buts, risques et bénéfices d'un traitement ou d'un examen médical. Mais alors, comment adapter les situations de prise de décision aux difficultés du patient ? Ou autrement dit, comment respecter les souhaits et intérêts du patient lorsqu'il lui devient difficile de raisonner et d'exprimer ses préférences ? Pour les professionnels de santé, il va être nécessaire de fournir le plus tôt possible des informations au patient sur sa maladie, sa prise en charge, les traitements éventuels, en offrant un temps d'information, mais également un temps d'écoute, et en permettant au patient et à son entourage de poser toutes les questions éventuelles. On va alors privilégier des choix accompagnés, faisant intervenir un professionnel pour ses connaissances, donc en fonction des situations, il pourra s'agir d'un médecin, d'un orthophoniste, d'un psychologue, voire d'un directeur d'EHPAD. L'entourage, qui a connaissance des valeurs, des souhaits et de la personnalité de la personne malade, et le malade lui-même, qui intervient dans la prise de décision en fonction de ses capacités. Grâce à cette association triangulaire, la personne de confiance va pouvoir aider la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer à exploiter la moindre parcelle d'autonomie, l'accompagner et la soutenir dans ses prises de décision, reprendre les informations non comprises, insister sur les aspects pertinents, que ce soit de la prise en charge, du traitement, etc., et mettre en avant les éléments qu'elle pense importants en fonction de la personnalité du patient. Alors, pour s'intégrer dans sa fonction d'aide à la décision, l'entourage va devoir reconnaître les capacités du patient, c'est-à-dire essayer de l'aider au maximum à participer aux prises de décision en s'adaptant à son degré de jugement. Dans une aide à la décision, il ne s'agit pas d'exiger un discernement absolu. Le tout est que le malade ait son mot à dire, qu'il ne soit pas disqualifié, car il continue de ressentir des émotions qui préservent certains automatismes, certaines intuitions et guident son choix. Il faut également essayer de planifier l'avenir. L'idéal est que le patient puisse discuter le plus ouvertement possible, tant qu'il en est capable, avec son entourage, de ses désirs concernant les soins, ses affaires financières, son devenir. Enfin, il faut s'adapter aux capacités changeantes, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la maladie évolue, l'aidant et les professionnels de santé vont devoir déterminer les capacités qui subsistent, décomposer des tâches et décisions complexes en options simples à comprendre et respecter les choix de la personne. Alors, à mesure que les capacités de discernement s'amenuisent, les professionnels de santé et l'aidant doivent s'assurer que la personne continue de prendre le plus grand nombre de décisions possibles. Il faut alors simplifier les situations en réduisant le nombre d'options pour chaque décision. Donc si je prends un exemple de la vie quotidienne, on va plutôt privilégier des questions fermées. Par exemple, voulez-vous prendre un bain, qui va amener une question simplement par oui ou non. Ou en laissant le choix entre deux alternatives. Voulez-vous prendre un bain maintenant ou plus tard? Plutôt que de demander quand voulez-vous prendre un bain, qui nécessite une réponse complexe. On simplifie les situations en aidant la personne étape par étape. Si je prends l'exemple d'une sortie, on va alors demander « Voulez-vous vous promener maintenant ? Oui ou non ? Voulez-vous votre gilet bleu ou rouge ? Allons-nous au jardin ou au parc ? » En étant sensible aux messages non-verbaux, c'est-à-dire aux expressions du visage, aux gestes de la personne, ainsi qu'à l'intonation, afin de décoder les émotions de la personne. Et en laissant des choix simples au quotidien, pour les repas, le choix des vêtements, le moment de la toilette, les émissions de radio, de télé, le choix d'une activité, des personnes à recevoir, alors qu'il sera nécessaire que l'aidant s'intègre aux décisions importantes. Tant que le patient est encore capable de prendre des décisions, on doit l'encourager à discuter avec les membres de sa famille de ses choix, de la personne qu'il souhaite désigner comme décisionnaire remplaçant. Cette place laissée à la discussion aide la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer à s'investir et contrôler les décisions futures, et donc à préparer son avenir tant qu'elle le peut. Bien sûr, il peut être difficile de parler de sujets comme la maladie, la mort, les finances et le lieu de vie, mais garder le silence empêche de réaliser ultérieurement les souhaits du patient. Attention, il existe une différence importante entre ne pas tout dire et mentir. Il ne s'agit pas de donner trop d'informations à la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. L'expression de la vérité doit donc être proportionnée aux souhaits du patient, à ce qu'il est prêt à entendre. Mais s'il désire savoir, il ne faut pas mentir. Le fait de ne pas dire la vérité en pensant préserver la personne conduit le plus souvent à une confusion et à des contradictions qui mettent en jeu la confiance que la personne a en son entourage. Alors, au moment de choisir un décisionnaire remplaçant, le malade va devoir considérer à la fois la disponibilité de la personne à l'égard de ce rôle, son respect de ses valeurs et de ses souhaits, son intégrité, sa capacité à travailler en collaboration avec d'autres personnes et à résoudre les situations conflictuelles. Donc pour procéder à la désignation d'un décisionnaire remplaçant, il existe un mandat de protection future. C'est une mesure méconnue, mais néanmoins très importante, de la loi réformant les tutelles du 5 mars 2007. Ce contrat permet à une personne d'organiser à l'avance sa protection en choisissant celui ou celle qui sera chargée de s'occuper de ses affaires le jour où elle ne pourra plus le faire elle-même en raison de son âge ou de son état de santé. Il peut par exemple permettre aux personnes qui se savent touchées par une maladie d'anticiper sur son développement. Il existe donc deux formes de mandat, le mandat notarié ou mandat sous seing privé. Il peut être gratuit, mais il est plus prudent d'envisager un enregistrement auprès de la recette des impôts afin d'éviter tout litige ultérieur. Donc, je vous ai mis un extrait du formulaire. Donc, c'est un long formulaire à remplir qui doit être rempli à la fois par la personne qui choisit un décisionnaire et le décisionnaire remplaçant lui-même qui doit certifier qu'il accepte ce rôle. Si le moment est venu pour le décisionnaire remplaçant de prendre des décisions au nom de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, il doit s'efforcer de respecter les souhaits exprimés antérieurement par cette personne. Si les souhaits du patient ne sont pas connus ou en cas de conflit, le décisionnaire remplaçant devra alors fonder sa décision en tenant compte des valeurs de la personne malade, des avantages et inconvénients de chaque décision, des répercussions sur l'entourage du malade, des répercussions sur le bien-être physique et émotionnel du patient et des conséquences sur la qualité de vie de la personne et des aidants. Donc, pour résumer mon propos, il est essentiel de reconnaître les qualités préservées de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer et de l'intégrer autant que possible et aussi longtemps que possible aux prises de décision. Il faut que l'entourage s'intègre à la prise en charge globale du patient, qu'il en comprenne les tenants et les aboutissants afin de l'accompagner de manière optimale au quotidien. Et lorsque la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer n'est plus en mesure de décider, il faut respecter ses choix et valeurs au maximum. Mais bien sûr, ces situations de prise de décision ne sont jamais simples. Elles doivent prendre en compte les choix du patient, mais il se peut également qu'elles doivent être étudiées en rapport avec les besoins de l'entourage et les conseils des professionnels de santé. Le but est donc de trouver un équilibre. Je vous remercie de votre attention.
Bon, très bien. Il y a peut-être peut-être des questions. Je ne sais pas si on m'entend. Quelques questions. L'assistance. Non, c'est vrai qu'on voit beaucoup de diversité dans les méthodes de rééducation. Moi, quand j'ai écouté Émilie Meurin tout à l'heure, est-ce que de temps en temps, ça arrive qu'on propose des choses très écologiques ? Alors ça, oui, j'en ai vu. Mais par exemple, de discuter dans les groupes de films ou de livres, et voire même... Il y a des patients qui se plaignent, par exemple, de ne plus pouvoir lire. Alors la lecture, c'est quand même en plein dans la rééducation, enfin dans l'orthophonie. Et donc les patients apprécient telle revue ou telle lecture. Et en fait, du fait de leur amnésie ou d'autres incapacités, eh bien, ils doivent se relire le lendemain. Donc ils ne peuvent pas avoir une lecture suivie. Bon, ça me vient comme ça, mais je me dis... Est-ce qu'il arrive que tel orthophoniste se charge, par exemple, d'aider, de supporter la lecture qui peut se faire par le patient, mais qui pourrait être étayée finalement par l'orthophoniste, parce qu'il y a à la fois un côté, j'y pense, parce que c'est très écologique, c'est-à-dire que c'est un besoin. Ensuite, il y a un contenu qui en plus répond à une nécessité pour le patient, enfin quelque chose de pertinent pour lui. Et puis il y a un côté, je dirais, continu sur le temps. Il y a une temporalité dans la lecture. Donc il y a à la fois moyen sur cette base de répondre donc aux besoins du patient, et puis en même temps d'animer des discussions autour de sujets qui passionnent le patient, et effectivement une interaction qui pourrait, c'est une idée comme ça. Hein. Une interaction qui pourrait être extrêmement forte, puisque finalement le patient assurerait une partie du travail et puis l'orthophoniste l'autre partie, quoi. Est-ce que ça existe?
Oui, à propos de la lecture, c'est une activité que j'ai pu proposer à certains patients, et notamment à des patients qui avaient une démence d'Alzheimer débutante. On s'est lancé dans la lecture de nouvelles. Alors, non pas en thérapie de groupe, mais en situation duel. Et bon, j'étais pas très sûre de moi. C'était, je pense, en particulier à une patiente qui avait cette plainte. Je ne peux plus lire parce que je suis obligée de reprendre à chaque fois mon livre. Là où j'en étais, je ne me souviens pas des informations. Et donc, on avait choisi de se lancer dans une nouvelle. Donc, ça n'est pas un texte, c'est une nouvelle. Qui a couru donc sur plusieurs séances de travail. Bon, on a tâtonné ensemble. Je lui ai dit, on va essayer et puis on verra. J'ai été très surprise de la manière dont la patiente a accroché. Alors, bien sûr, elle n'a pas tout retenu de la nouvelle, mais la trame essentielle, c'est-à-dire qu'elle était capable de lire, cette patiente. Après la lecture, on posait des questions globales sur ce qu'elle venait de lire, des questions, je dirais, presque logiques, qui lui permettaient de répondre logiquement au déroulement de l'histoire. Et puis ensuite, on laissait une trame dans son agenda, un petit résumé que l'on construisait ensemble avant qu'elle ne quitte la séance. Et donc, elle repartait avec son agenda. Et quand elle revenait sur la séance suivante, elle me disait qu'elle avait relu son agenda régulièrement. Mais en tout cas, quand on reparlait de la nouvelle, non seulement elle la réclamait, mais elle était capable de redonner les grands fils de l'histoire. Donc ça a été intéressant. On n'a pu faire qu'une seule nouvelle, par contre, avec cette patiente.
C'est quand même super intéressant, parce qu'elle était amnésique. Oui. Et ça veut dire qu'effectivement, elle pouvait perdre du jour au lendemain donc une partie du fil. Mais effectivement, il y a plein de niveaux emboîtés. Donc il y a le niveau lexical, la sémantique, la trame, le niveau... La syntaxe, et puis le message lui-même. Et donc, vous êtes en train de dire que, en fait, malgré son amnésie, il y avait une partie qui allait je ne sais pas où, qui sémantisait ou je ne sais quoi. Mais l'intérêt en plus affectif qu'elle pouvait avoir pour le sujet, pour la nouvelle, faisait qu'elle en gardait quand même une trace, quoi.
Oui.
Ouais, ça c'est quand même super.
C'est un exercice qui a été proposé à d'autres patients qui fonctionne plus ou moins bien. C'est vrai que là, je me suis appuyée sur la demande de cette patiente. Elle avait une demande forte en lecture. Ça fait partie, enfin, ça faisait partie de ses loisirs préférés. La plainte était là et on s'est lancé. Ça a fonctionné pendant un temps.
Je voulais demander... s'il vous plaît, si on veut faire un bilan, quelqu'un qui a des doutes par rapport à son état, où est-ce qu'il faut s'adresser, s'il vous plaît ? Faire un bilan pour savoir si...
Un bilan de trouble de mémoire ?
Oui.
Il n'y a pas de souci, il suffit de, de prendre rendez-vous en consultation à l'unité de neuropsycho au CHU, adressé par le médecin traitant, okay. Effectivement.
Ah oui, il faut
ouais, c'est mieux,
une
c'est
demande
mieux.
Du médecin traitant. Okay.
Et on vous voit dans un délai rapide.
En neuropsycho, au CHU.
En neuropsycho, exactement.
Oh. Merci.
Je vous en prie.
Merci. Vous parliez tout à l'heure, Madame Pluchon, je crois, de la thérapie psychosociale. Vous parliez de l'amélioration de l'estime de soi. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu plus ce que vous faites avec vos patients et si ce travail se fait parallèlement avec la famille, en fait ?
La famille est en effet parfois conviée à assister aux séances, à participer, comme ont pu vous le dire mes collègues. Ça dépend si les patients sont pris en charge individuelle ou en groupe. Dans les séances de groupe, en général, les aidants sont quand même relativement peu présents. Personnellement, moi, je vois plus l'accompagnant lorsqu'il s'agit d'une prise en charge individuelle, parce que je vois à ce moment-là l'accompagnant à intervalles réguliers. Mais l'estime de soi, c'est en effet essayer de faire en sorte que le patient trouve toujours une utilité. Donc moi, je conçois plutôt les activités de groupe avec à l'appui fabrication ou participation à la production d'un outil, d'un travail, d'un texte, élaboration d'un texte qui peut être utilisé par les autres après. Essayer de travailler sur la mise en place d'un exercice qui pourra aussi être proposé à d'autres groupes ensuite. C'est à travers ça que je vois un petit peu l'estime de soi favorisée chez le malade. C'est pas uniquement gaver le malade d'exercice, mais c'est faire en sorte que lui aussi, à la fin, il ait produit un travail et que ce travail, il en laisse une trace et que cette trace, donc, elle soit utile aux autres par derrière. Je crois qu'on peut ainsi revaloriser la personne. Il ne vient pas là uniquement pour être passif, si vous voulez, même s'il n'est pas passif dans les groupes, qu'il interagit avec les autres, etc. Mais il vient aussi pour essayer de produire quelque chose. C'est pour ça que les groupes, en ce qui me concerne, sont, pour certains, des groupes de créativité à la mesure des patients. Il est bien évident qu'il faut les aider, qu'il faut parfois se substituer à eux pour parvenir à mettre en forme quelque chose, mais il faut qu'il y ait des idées des malades, que ces idées soient travaillées et qu'au bout du compte, il y ait un travail rendu, palpable, concret, sous forme de livret, de papier, d'exercice, etc. Voilà.
Peut-être encore une autre question, parce qu'on doit terminer pour 11 heures au plus tard.
Vous parlez d'aide, effectivement, aux malades. On voit que l'orthophonie est quand même utile et importante pour les malades en début de maladie, essentiellement. Est-ce que vous avez une action auprès des familles qui gardent les malades chez elles et qui n'ont peut-être moins accès à l'orthophonie et aux malades ? Et est-ce que les médecins sont préparés à vous envoyer ou à vous conseiller ces malades ?
Non, je n'ai pas de réponse évidente. Non, non, les patients, vous parlez de patients qui sont à un stade évolué.
Les patients qui sont encore à domicile et en début de maladie.
En début de maladie.
En début de maladie.
Et à votre question, c'est de savoir si, si on propose quelque chose qui s'adresse à qui, en fait, au patient lui-même.
Au patient, au patient, bien sûr, oui, puisque l'orthophonie aide les patients. Donc plus tôt on les prendra, plus tôt vous les aiderez, mieux ça vaudra.
Absolument. Et donc,
mais est-ce que les familles sont au courant et est-ce que les médecins généralistes font appel à vous justement pour que ces patients puissent en bénéficier?
Pas systématiquement. C'est vrai que ça passera souvent par justement le bilan neuropsycho. C'est-à-dire qu'il y aura un moment de diagnostic de toute façon. Et là, le patient passera dans les mains des orthophonistes, neuropsychologues, médecins. Et nous, effectivement, on prescrira une rééducation orthophonique. Et ensuite, le médecin traitant va relayer effectivement la prescription. Ça, ça fonctionne. Après, je ne sais pas si les médecins traitants ont l'habitude de lancer une rééducation orthophonique d'eux-mêmes. Ça, je ne sais pas.
Moi, je pense qu'il faut que les familles aient présent à l'esprit l'idée qu'en effet, il est possible de suggérer, de demander au médecin est-ce qu'une aide, un soutien thérapeutique, quel qu'il soit, hein, serait utile. Voilà. Il faut le faire connaître, oui, tout à fait.
Très bien, écoutez, merci pour cette soirée très intéressante. Et je donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent demain à 18h. Au théâtre, au cinéma-théâtre. Voilà. Merci et bonne soirée.
Et je pense que c'est enregistré. Voilà. La personne peut vous répondre, là, le technicien. Tu les ouvres et puis tu les supprimes.